Bonjour à tous, au sommaire de notre 101e épisode, nous allons faire un petit tour du côté des news avec pas mal d'annonces sur le futur de Marvel, des annonces sur le cinéma et une histoire un petit peu bizarre qui est arrivée à un fan de comics et de manga au Canada, quelque chose d'assez tragique. On passera ensuite au review avec un focus sur le Justice League de cette semaine, on parlera bien sûr aussi de Batman, on aura une bonne partie sur le Spider-Man et bien sûr d'autres titres Marvel, DC, mais aussi Icon, Boom et Dark Horse. Et puisque Kinghead n'a pas pu être présent avec nous pour cet enregistrement, nous avons fait un petit coin du Kinghead, il nous donnera son avis sur certaines des parutions de cette semaine. Je suis Steve et vous écoutez Comics Weekly. Avec moi cette semaine, Mr. René Bunny.
Oui, bonjour à tous.
Et donc nous sommes juste tous les deux en duo, à l'ancienne j'ai envie de dire.
Ouais, avec un guest star qui va apparaître au cours de l'émission, comme tu l'as annoncé de toute façon il y a quelques secondes.
Intro que tu n'as pas du tout entendu, puisque je n'ai pas du tout enregistré pendant que tu étais là, juste en silence.
Ouais, voilà, c'est ça. Une intro bien laborieuse, mais qui par la magie de la technique va se retrouver... En ordre,
hein, normal, voilà, c'est ça, tout simplement. Je tenais d'abord à remercier tous les gens qui ont participé au Comics Weekly numéro 100 de la semaine dernière. Pendant 4 heures, cette émission en direct. Vraiment un grand merci à vous tous, puisqu'on a passé vraiment tous une superbe soirée.
Oui, c'était certains plus que d'autres d'ailleurs. Certains ne se souviennent pas d'ailleurs de la fin de la soirée, mais...
Non mais c'est vrai en plus.
Bah, faut écouter jusqu'au bout. Alors, attends, la réplique finale, enfin les deux répliques finales, c'est quand même anthologique. C'est-à-dire que ça se termine quand même sur « T'imagines, il meurt, il a mis son portable sur vibreur ». C'est les deux répliques de la fin. Puis ça se finit comme ça.
Voilà, tous ceux qui n'ont pas écouté le Comics Weekly numéro 100, mais allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein. Bon, il est en deux parties parce qu'il est assez gros, mais voilà, c'est y a le petit bonus track qui rehausse encore plus le niveau.
Qui fait toute la différence.
On a vraiment passé un très bon moment, et d'ailleurs, on refera l'expérience directe avec vous, auditeurs. La prochaine fois, on prendra aussi des gens à l'antenne, histoire de discuter un petit peu, d'intervenir directement avec nous.
J'avais envie de te dire calme-toi, Steve.
J'y étais pas, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Donc voilà, c'est vraiment merci à vous tous. Et puis j'espère que la prochaine fois, nous serons encore plus nombreux et que ça tombe pas pendant la Coupe du Monde, l'Euro. La
coupe oui, du monde, tout de suite. Oui, enfin, c'est pareil, on n'est pas des footeux ici, ça se voit tout de suite. Bah, mais par contre, on remercie aussi tous les gens qui nous ont remerciés par la suite. Hein, cette semaine, vous avez été quand même quelques-uns à nous dire que ça vous avait plu. Donc on est très contents. Et d'ailleurs, on n'en espérait pas tant, finalement. C'était vraiment, bonne surprise.
Ça a été vraiment une très bonne surprise, on n'espérait pas qu'il y ait autant de monde. Bon, on aime bien avoir du monde, hein, au contraire, hein, plus on en a, mieux, plus on est content, mais c'est vrai qu'on n'espérait pas qu'il y ait autant de monde de présents à écouter jusqu'à tard, finalement, parce qu'on a terminé, il était plus d'1h du matin.
Ouais.
Et voilà, on a fait des pics assez sympathiques. On pensait pas autant de personnes, et vraiment un très très grand merci, encore une fois.
C'est sûr qu'on en a balancé pas mal des pics durant cette émission.
Aussi. Aussi.
Très sympathique, je ne sais pas, mais il y en a eu pas mal. Enfin bon, voilà, une bonne expérience à renouveler, je l'espère, très vite.
Et ben, sûrement pendant l'été, même.
Ah, bah d'accord, bah, alors c'est cool.
Plus sûrement au mois d'août d'ailleurs qu'au mois de juillet, parce que le mois de juillet est déjà un petit peu chargé.
Mmh. Avec tout ce qu'on a pris. Justement, pour une soirée de juin, beaucoup de monde. Et alors, si on réitère en août, et ben, espérons qu'il y aura encore des gens qui seront là, quoi, quand même, que tout le monde ne sera pas parti, mais bon.
J'ai eu peur que t'essayes de trouver une blague qui rime, Allô mais je sais pas, j'y ai cru. Allez, on va passer maintenant aux news. On commence par la révélation par rapport à ces teasers que l'on a pu voir ces dernières semaines avec un Iron Man criblé de balles, Spider-Man avec un fusil pointé vers son cœur ou encore le bouclier de Captain America ensanglanté. Eh bien tout simplement, c'est Punisher Warzone qui revient. Nouvelle série Punisher.
Ah bon ?
Eh oui.
Non. Sans déconner, c'est pas Ultron War.
Eh non, ce n'est pas Ultron War, c'est Punisher Warzone. Ça aurait été étonnant quand même qu'au sortir d'un event tel qu'AVX, on ait tout de suite Ultron War.
Ah donc Bleeding Cool, c'est gouré, puisque Bleeding Cool annonçait quand même que c'était effectivement, en plus officiellement, ils l'ont annoncé, je crois, hier, que c'était effectivement Ultron War et que ce serait le dernier arc de Bendis sur la franchise Avengers.
Eh ben alors apparemment chez CBR ils n'ont pas du tout les mêmes infos. Hein. Une info qui est parue aujourd'hui d'ailleurs.
D'accord, bah écoute, c'est drôle. Ok.
On n'a pas d'annonce pour le moment sur l'équipe créative. On en saura plus lors du panel d'Amazing Spider-Man le 15 juillet, lors de la Comic-Con, bien sûr. Mm-hmm. En tout cas, ça débarque en octobre.
D'accord. Et étrange alors, quand même, puisque je m'attendais à tout sauf à ça.
Mais oui, on s'attendait vraiment à un crossover, mais ça aurait été étonnant quand même. Vraiment d'avoir un event juste après un autre, puisque je crois qu'AVX doit se terminer en septembre. Enchaîner d'un event sur un autre, c'est quand même un petit peu... limite, quoi.
Ouais, d'accord. Donc, le Punisher à nouveau au centre de l'univers Marvel. Mais ça fait longtemps qu'on entend parler d'une rumeur comme quoi le Punisher allait avoir un gros event autour de lui. Et au fait, cet event n'arrive jamais, donc c'est peut-être ça, enfin, qui arrive.
Bah, c'est peut-être ça, justement. Bah, de toute façon, plus de réponses d'ici une quinzaine de jours, à peu près.
Mais au fait, ça reprend toujours le thème de Punisher contre le Marvel Universe, par contre.
Eh oui. Bah, moi, ça me désole un petit peu. J'aurais préféré voir un Punisher qui décide d'aller buter du super vilain et que les autres essayent de l'en empêcher, quoi.
Ouais.
Tout simplement. Yeah. On continue avec les premiers visuels des premières pages de la série Hawkeye qui débarque en août, écrite par Matt Fraction avec David Aja au dessin. Et ben c'est super beau.
D'accord.
En même temps, bon. David Aja, on pouvait s'y attendre, mais c'est vrai que c'est le tandem que l'on avait eu sur Immortal Iron Fist.
Ouais.
Et vraiment, moi ça me donne envie. J'étais pas convaincu, Matt Fraction, voilà, mais finalement ça me donne envie, quoi.
D'accord. Bah écoute, j'ai pas regardé encore ces visuels. Je t'avoue qu'Hawkeye, c'est pas un personnage qui me passionne, mais il y a pas une erreur comme quoi enfin la série devrait s'appeler Bucky du coup.
à savoir que dans ces pages preview, on voit quand même Hawkeye se la jouer Bullseye avec des cartes hein, tirer des as de pique pour dégommer les gens.
D'accord, mais est-ce qu'on sait si c'est bien j'allais dire Block Eye, Hawkeye sous le costume, enfin si c'est bien Clint Barton.
Ah oui, c'est Clint Barton, avec les visuels que l'on a, c'est Clint Barton.
Okay.
À savoir que dans cette série, il sera pas mal en tandem avec Kate Bishop, la Hawkeye des Young Avengers.
Ok, d'accord.
Ça m'amène donc à cette série qui sort en août. On va avoir d'autres séries qui arrivent en août aussi. On va avoir une série dont on a déjà parlé qui s'appelle The First X-Men, qui se passe avant First Class. Commence à être bizarre. Hein.
Autour de Wolverine, hein, c'est ce truc par... Ouais. Comment s'appelle-t-il déjà ? Adams, mais je sais plus lequel. Du coup, je me gourre à chaque fois. Neil Adams, ouais. Non, je crois.
Neil Adams, c'est ça, tu as raison. Et Christos Gage. Et okay. on voit du Sabretooth, hein, puis on voit d'autres personnages que je n'arrive pas forcément à reconnaître.
Hmm. Sabretooth qui revient d'ailleurs dans Sabretooth Reborn très vite.
Bah, dans les pages de Wolverine aussi, avec Simone Bianchi en juillet. Et Jeff Lubb. On a aussi une série Gambit qui débarre en août. James Asmus au scénario et Clayman au dessin. Ce qui m'amène à dire quand même que, bah, pour moi, Marvel fait une erreur en sortant ces séries maintenant, et surtout en les annonçant maintenant, puisque déjà, on sait très bien que des gens comme Wolverine, Gambit, ne souffriront pas d'AVX. Ils seront toujours présents après. Puisqu'on va pas commencer une série au mois d'août pour les arrêter au mois de septembre si ces personnages-là meurent. Enfin, ce serait débile.
Bah, ça dépend si c'est des mini-séries ou pas, quoi.
Non, ce sont des séries régulières.
D'accord.
Ce sont trois séries régulières, c'est le problème. Bon, la série First X-Men se passant avant, à la rigueur, peu importe, mais pour la Gambit et Hawkeye, pour moi c'est un peu dommage.
En même temps, c'est des personnages tellement secondaires maintenant, malheureusement, que qu'il
leur arrive quelque chose. Sauf un personnage secondaire.
Je t'avoue que Hawkeye m'a jamais intéressé, je sais pas pourquoi, mais depuis qu'il est là, depuis qu'il a un rôle plus déterminant, il m'a toujours lassé. Quoi. Et c'est pas son interprétation, enfin son rendu dans les films qui va me convaincre de suivre ce personnage.
Ben, enfin, moi je sais pas, j'irai voir.
Ouais, c'est toujours aimé,
à cause de la team.
Ouais, puis t'as bien aimé les mini-séries avec Jim McCann au scénario, je crois. Donc,
ouais, j'avais bien aimé, ouais. Donc, bah, y a que Hawkeye Blindspot, là, qui est sorti au mois de juin, en français, que je n'ai toujours pas lu.
Moi, ça m'a jamais passionné, au fait. J'ai jamais accroché, donc.
Mais c'est pourtant un personnage qui essaie de faire central, hein, vraiment, dans l'univers Marvel, notamment en plus à cause du film.
Bah, il est un petit peu, il essaie de le mettre au cœur de la cible, quoi.
Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est propre. Non, c'est de la bonne vanne. Là, moi, je dis bravo. Autre news importante, puisque c'est dans ce relaunch non officiel que l'on aura chez Marvel en fin d'année, hein, avec ce gros changement d'équipe créative un petit peu partout, les chaises musicales, on se croirait dans le mercato de fin d'année à la télévision. Quoi.
Bon, on se croirait surtout dans les New 52, hein, c'était un petit peu pareil avec DC l'an dernier.
D'où relaunch non officiel.
Oui, enfin voilà, un relaunch qui n'en est pas un, mais qui en est un quand même. Quoi.
Et on a donc appris que Frank Cho va arriver sur leur titre Wolverine et dessin, mais aussi scénario.
Ouais, ce qui m'a un peu étonné, Je suis vraiment pas fan de cette manie de coller des dessinateurs au scénario également. Comme je te disais, hein, c'est un petit peu ce qu'on a eu sur les New 52 sur pas mal de séries. Je pense notamment à Brian Buccellato sur Flash.
Bah, avec Francis Manapul.
Avec Francis Manapul. Oui, c'est ça, c'est Francis Manapul en plus
Mais
qui...
non, mais tous les deux hein, sont
Ouais.
au sont scénario en fait.
Oui. Non, mais enfin, je veux dire, c'est Francis Manapul qui avant ne s'occupait que de dessiner, qui maintenant est au scénario de Flash.
Bah, et encore, enfin pour le moment, moi je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal, quoi.
Ouais, non, mais enfin, c'est qu'un exemple, mais après, Tony Daniel sur Batman. Voilà.
Alors, Tony Daniel qui d'ailleurs a annoncé qu'il allait quitter Detective Comics.
Ouais, ce qui fait la joie de certaines personnes de l'équipe.
Je vous promets que Sam a hurlé de joie. On continue avec un changement de titre.
Oui, la série Astonishing Avengers qui va remplacer donc Secret Avengers, comme tu l'avais spéculé la semaine dernière, je crois.
Ouais, bah maintenant c'est
Donc,
confirmé.
on retrouve Rick Remender au scénario, bien sûr. Jérôme Opena se chargera des dessins. Mais, changement de titre, finalement, ce ne sera pas Astonishing Avengers, mais Uncanny Avengers que ça va s'appeler.
Peu
Voilà.
pourri quand même.
Donc, Astonishing Avengers faisait bien sûr penser à Astonishing X-Men. Finalement, ça va plutôt ressembler à Uncanny X-Men dans le titre. Bon, je sais pas pourquoi. Peut-être que Uncanny, effectivement, c'est plus porteur chez Marvel qu'Astonishing. Généralement, voilà, on est plus accroché par le titre Uncanny, puisque forcément, Uncanny X-Men existe depuis bien plus longtemps qu'Astonishing.
Ouais, enfin,
Et
Astonishing jouit d'une énorme réputation avec ce run de Joss Whedon.
ouais. Bah d'ailleurs, c'est le seul. Enfin, je veux dire, on imagine. Enfin, on oublie même qu'il y a eu.
Bah si,
Moult numéro par la suite.
il y a eu ensuite le run de Warren Ellis.
Oui, bah alors là. Puis après, je suis incapable de te dire Rick. Je sais même plus qui est passé dessus.
Après, c'était Marjorie Liu en tandem avec Daniel Way, je crois. Mais, tu sais, ils alternaient,
Alors, il y
c'était un
avait du Rick
épisode.
Remender aussi, non?
Ah,
Non?
peut-être, ouais. Il y avait
Non,
un
je sais
épisode l'un, un épisode l'autre, c'était assez difficile à suivre.
pas. Ouais. Toujours est-il que donc Uncanny X-Men, et on nous annonce que les chefs d'équipe, enfin de cette équipe, quoi, de Uncanny Avengers, ce sera Captain America et Wolverine, oh quelle surprise!
Oui, mais alors en plus, un cap, c'est là que c'est encore pire, qui aura un costume beaucoup plus ressemblant à celui qu'il a dans le film.
Bah oui, on surfe sur la vague du succès d'Avengers, donc faut s'attendre à ce que tous les personnages membres d'Avengers ressemblent à leur homologue dans le
Mais
film, quoi.
ils ont déjà modifié Hawkeye dans la série Avengers Assemble,
Je
qui
suis
a un
persuadé qu'on
costume.
va aussi dessiner Black Widow un peu plus à la manière de. Enfin. Elle va ressembler de plus en plus à Scarlett Johansson, à mon avis, dans les pages des comics.
Il y
Donc
a
ça,
de fortes chances. Mais je sais pas. Est-ce que ce serait un moyen de nous faire comprendre que finalement ceux qui vont gagner, ce sont les Avengers, qui vont vraiment ressortir plutôt vainqueurs de cet affrontement entre les
ah
deux?
oui, pour ils prennent les titres entre guillemets des X-Men,
Ouais, et puis
peut-être.
bon, enfin voilà, c'est quand même, on nous annonce une nouvelle série, on n'a pas vraiment entendu d'annonce pour le moment sur les séries X-Men,
À part que voilà, Bendis, etc.
à part que Bendis arrive dessus, effectivement.
Il y en a eu quand même pas mal des annonces sur les X-Men les semaines précédentes. Mais je sais pas quoi en penser. Mais de toute façon, il est clair que les X-Men jouent le rôle des grands méchants finalement dans AVX.
Bah oui, de toute façon c'est déjà le cas.
Donc
Enfin, pour
bon.
moi c'est déjà le cas. Cyclope est le méchant d'AVX. Aidé par le Phénix, certes, mais ça reste quand même un
Bah ouais,
méchant.
mais d'ailleurs c'est un petit peu la déception. Comme on va pas parler d'AVX, je peux le dire maintenant, mais c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans le live. Il y a ce côté, tu sais, à la Daredevil, comment ça s'appelle?
Shadowland?
Shadowland, où finalement, bon bah, Matt Murdock ne pète pas les plombs, il est simplement manipulé par une sorte de démon, et bah là c'est pareil, bon, il y a un petit peu ce.
Là, il est manipulé, oui et non. Moi, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment manipulé. Hein. C'est vrai qu'on fait un aparté là dans les news, mais j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment manipulé. J'ai l'impression que ça exacerbe totalement son côté radical, puisque maintenant il a le pouvoir pour pouvoir agir. Bah, il en profite, quoi. Et
Ouais, mais
il
enfin,
renforce sa position, quoi.
il y a ce costume, etc. J'ai l'impression que le phénix le manipule quand même pas mal. Bon, enfin.
Ouais. Bon, c'est vrai qu'à la lecture du Infinite, on peut avoir aussi cette impression.
On verra comment ça évolue. Bon, parenthèse fermée. Est-ce qu'on avait autre chose sur le Marvel et DC?
Mais sur Marvel et DC, pour moi, je n'avais rien, mais par contre, on a des petites annonces du côté du cinéma et de la série télé. Alors déjà, la folie Walking Dead continue, puisque Titan Magazine et Skybound vont sortir un magazine officiel The Walking Dead.
Mais par rapport à quoi, en fait, quel sera le contenu de ce
Et alors,
truc-là?
on aura un petit peu tout, on aura des choses sur le comics, on aura des choses sur la série télé, des interviews avec des acteurs, des interviews avec des gens comme Robert Kirkman, comme Charlie Adlard, etc. Ce sera un magazine qui sortira tous les 4 mois.
Ouais, c'est
Trois
ce que
fois dans
j'allais te
l'année.
dire. À mon avis, c'est pas viable pour que
Ah
ça
mais
sorte
c'est.
tous les mois, quoi.
C'est, je pense, comme les magazines que l'on avait, hein, les Star Wars magazine, les Star Trek magazine, toutes les plus grosses séries à succès ont leur magazine. On a un Supernatural magazine, par exemple. Voilà, il y a vraiment apparemment un marché pour ce genre de magazine. Donc, ils se lancent dans la brèche. Le premier numéro sortira le 23 octobre aux États-Unis, le 8 novembre en Angleterre et le 18 décembre en Australie et Nouvelle-Zélande.
Et ça me rappelle que quand j'étais petit, il y avait un X-Files magazine.
Mais oui, mais voilà, c'est exactement le même type de contenu. Et on nous promet d'ailleurs qu'il y aura beaucoup de choses exclusives que l'on apprendra d'abord dans ce magazine. Donc,
Bien sûr,
il y a
ouais.
fort à parier que
Des pages preview, etc., quoi.
la plupart des nouvelles annonces, des prochaines annonces, que ce soit pour le comics ou la série télé, passent d'abord par ce magazine avant d'être mises un petit peu partout ailleurs sur les autres sites.
D'accord, ok. Bon, de toute façon, ça se retrouvera vite sur Internet maintenant.
À savoir que si vous allez sur Facebook et que vous aimez la page de ce magazine, bah vous pourrez aussi avoir une petite remise de 20% sur le prix du magazine.
Ah,
Ce qui est toujours avantageux.
quand même. Bah, vu le nombre de personnes qui utilisent Facebook maintenant,
Voilà,
à
si
mon
vous
avis,
pouvez.
faut qu'ils changent le prix du magazine complètement, quoi, puisque.
Ben, ça dépend, hein. Il y a des gens qui n'iront pas forcément ou qui ne le savent pas forcément, mais voilà, on aura une réduction de 20% sur l'abonnement. Ce qui est
D'accord.
toujours cool.
Ah oui, sur l'abonnement, d'accord, ok. Je croyais que c'était sur le prix, du mag, quand t'allais le chercher en magasin.
Bah non, enfin ça se commande sur le net quoi. Enfin on commande son numéro et puis
Bien sûr, ouais, ok.
on continue avec l'annonce de la diffusion du premier épisode de Green Arrow, enfin de Arrow, pardon. Arrow. Le premier épisode sera diffusé le mercredi 10 octobre sur la CW bien sûr.
D'accord.
On continue toujours sur le cinéma et les séries télé. Là cette fois-ci on va s'intéresser un petit peu plus au cinéma puisque Marvel a annoncé la sortie d'un énorme coffret qui s'appelle le Marvel Cinematic Universe Phase 1. Avengers Assembled, tout ça, hein, c'est très long comme titre. Ce sera un gros coffret collector en Blu-ray avec 10 disques quand même, où on aura dedans bah, les 6 films du Marvel Studio, donc Iron Man, Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America et bien sûr The Avengers.
D'accord.
Et on aura tout un tas de bonus qui s'appellent Phase 1 Archives. Apparemment, ce serait vendu au prix de 219 $.
Quand même, pour des trucs que tout le monde a déjà acheté en multiples exemplaires,
Mais là,
apparemment.
il y aura des bonus complémentaires,
Et oui, ben,
etc.
les fameux bonus.
À
Et
savoir que
puis il y aura sans
Captain
doute
America.
une petite litho signée par Pierre-Paul ou Jacques,
Ah
qui a
ben, en tout
participé
cas,
de près ou de loin à l'élaboration du film.
on en apprendra plus hein, sur le contenu et tout ça le 15 juillet, là aussi, hein, le dernier jour de la Comic Con. Mais il faut savoir que le Thor, le Captain America et Avengers seront en Blu-ray et en Blu-ray 3D. Vous pourrez revoir les films en 3D à la maison.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il
Bah
faut
si vous avez une télé
peut-être qu'il
3D,
en plus.
tout simplement. Quoique je ne sais pas si ça marche avec des lunettes sur une télé normale.
Je ne sais pas maintenant.
Mais comme on a l'avènement des télés 3D qui se démocratisent de plus en plus, il est fort probable que ça ne marche que sur des télés 3D.
Bon, de toute façon, il va y avoir des tonnes de problèmes d'incompatibilité entre les différents matériels, etc. Donc, ça va encore être compliqué, cette histoire.
De toute façon, on aura plus d'infos à la Comic-Con.
Comic-Con précise Comic-Con États-Unis, hein, pas
Comic-Con, oui,
bien sûr.
la Comic-Con International des États-Unis. J'en viens à mon avant-dernière news du coup, côté cinéma. On aura une preview et les premières images d'Iron Man 3, les premières séquences qu'on pourra découvrir lors de la Comic-Con. Mais on a surtout appris que Edgar Wright, qui est le réalisateur du projet, parce que ça restait qu'un projet jusqu'à présent du film Ant-Man,
Ouais.
eh ben, finalement, a déjà fait des essais. Et on nous annonce ça pas longtemps avant. Finalement, il y a de fortes chances que l'on voit ces tests pour Ant-Man lors de la Comic-Con.
D'accord.
Alors, ce qui est, il a filmé ça vraiment dans le secret le plus total, puisque personne ne savait qu'il avait vraiment tourné quelques scènes, quoi. On verra ce que ça peut donner. Ça peut être très sympa. Peut-être Ant-Man, peut-être la prochaine production pour la franchise Avengers.
Alright. D'accord. Mais c'est étonnant quand même.
Mais c'est étonnant, surtout
Oui.
qu'on n'a aucune idée du casting, quoi. C'est-à-dire qu'il a vraiment tout gardé super secret, et à notre époque, ça devient très difficile de garder quelque chose de secret. Donc, non, moi je dis bravo, vraiment.
Donc le nouveau Chéri, j'ai rétréci les gosses, quoi.
Peut-être.
Pour
Moi,
être dans les vieilles références pourries.
j'espère vraiment, vraiment que l'on aura Nathan Fillion dans le rôle du Ant-Man, puisque bah, c'est vrai qu'il a été pas mal annoncé pour ça, et ce serait vraiment génial. Nathan Fillion en Ant-Man, moi je trouve que ça le ferait. J'en viens à la dernière news ciné Marvel. On parle de plus en plus, et là on est quasiment au-delà de la rumeur, hein, c'est quasiment du sûr. Le prochain gros film de Marvel, hein, celui, le film Mystère qui est prévu pour sortir en mai 2014.
Ah oui, ça
serait
oui,
Guardians of the Galaxy.
Évidemment.
Kevin Feige, qui est président de la branche cinéma de Marvel, a vraiment beaucoup communiqué là-dessus. Donc il y a de fortes chances que ce soit ça. Et alors, il a bien précisé et il a assuré que si film il devait y avoir, chose qu'il y aura forcément.
Il y aurait Rocket Raccoon et Groot.
Voilà, ce sera la version 2008, c'est-à-dire la version écrite par Dan Abnett et Andy Lanning, donc avec Rocket Raccoon, Groot, Star-Lord, Drax, ouais. il y en avait beaucoup quoi.
Il y en avait pas mal, et puis il y avait Crypto peut-être. Non, pas Crypto.
Cosmo.
Forcément. Comment s'appelle-t-il plutôt?
Cosmo. Oui, c'était Cosmo, le chien télépathe.
Le chien télépathe, bien sûr, le chien russe. C'est une bonne nouvelle. Et puis bon, bah ça aurait été con d'adapter l'ancienne version avec Charlie 27, etc. Que ça connaît.
Ah, ça aurait été indigeste. Totalement indigeste.
En même temps, ce qui serait drôle, c'est que le film débute avec eux, quoi. Qu'il y ait un petit clin d'œil, je sais pas, qu'ils les croisent au début. Enfin voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'ils nous feront un truc cinéma du même acabit que Star Trek, etc. quoi. Point de vue réalisation,
peut-être, ouais. Peut-être,
qui est le budget,
ouais.
En tout cas.
Ou Avengers, ou enfin voilà, quelque chose de vraiment vraiment cool, quoi.
Ouais, qui fait bien.
Alors, on aura sûrement plus d'infos lors de cette conférence pour Iron Man 3, qui se tiendra donc le 14 juillet.
Pierre, je me demande qui va être l'ennemi.
Bah, sûrement Thanos.
Ah bah, j'aime bien comment tu spoil, dis donc.
Bah, tout le monde a vu le film maintenant, je m'en fous.
Ouais, c'est vrai que maintenant tout le monde le sait.
Ah bah, de toute façon, le film sort dans quoi? Dans 2 mois, en Blu-ray.
C'est vrai. Ouais.
Voilà, ceux qui n'ont pas vu le film, maintenant ça va être dur
n'écoute
de le voir,
pas,
je suis pas certain
avis,
qu'ils soient encore à l'affiche.
Oui, n'écoute pas des podcasts sur les comics, à mon avis.
Oui, enfin, ceux qui ne sont pas au courant que c'est Thanos, voilà, ne savent pas qui est Thanos à la base. Bref. Donc voilà, ça c'est plutôt rassurant comme news. Dernière news cinéma, alors là c'est du totalement surréaliste. Blue Water annonce que 2 de ses titres pourraient devenir des films.
Oula.
Oui, Blue Water Productions.
Ça existe.
Ben oui, tu sais, c'est ceux qui sortent tous les comics, les biopics.
Non, mais bien sûr, mais je veux dire, des films Blue Water, c'est...
Alors, ce sera pas des biopics hein, qui seront adaptés en film, ce sont vraiment des séries comics plus traditionnelles, hein, plus super-héros, collants et compagnie.
Est-ce qu'il y en aura une sur Adam West?
Non, pas du tout. Pas du
ah bah,
tout. Apparemment,
dommage.
Il y aurait
le seul
séries...
truc marrant qu'ils aient fait, c'est ça, quoi.
Ah bah non, ils ont un gros catalogue. Personnellement, moi, c'est pas des choses que je connais. Là, en tout cas, ils ont annoncé 2 séries. Insane Jane... Enfin, franchement, je ne connais pas hein, les 2 séries. Et Tom Corbett Space Cadet.
Putain, ça donne envie en plus, hein, les titres. Ok.
Ils sont en pourparler avec Pléroma Entertainment, qui est une franchise qui développe des films de façon un petit peu indépendante. Il y a de fort à parier que ce ne soit pas des films de très très grande qualité. On est plutôt du côté de la série B, voire de la série Z.
D'accord. Donc ce sera en diffusion sur
RTL9,
tout ça.
Ah oui, ouais, carrément.
Dans pas longtemps, quoi. Hein, dans 3 mois, c'est bon.
Ça m'étonnerait que ce soit des choses. Enfin, qui sait, on peut avoir de très très bonnes surprises, mais enfin, ça part mal, quoi.
Ouais. J'ai vu Zombie Apocalypse, je sais pas quoi, numéro 2, je pense, il y a quelques soirs. C'était quand même grandiose. Ça valait bien Avengers.
Et Blue Water a aussi d'autres films en projet, notamment avec Universal Studios et Paramount Pictures, Nanny and Hank, Legend of Isis, Tense Muse et Sinbad Rock of Mars. On va dire que ça bouge quand même.
Ça
du côté,
c'est de la news. Ça c'est de la série, ça c'est du lourd, ça c'est de la franchise qu'on a envie de voir à l'écran et qu'on a envie de suivre assidûment.
Moi je sais pas, un truc comme Sinbad Rock of Mars, j'attends tout de suite les critiques des gens qui vont dire « Oh, c'est très John Carter, tout ça ».
Ouais, puis en plus avec Sinbad, donc la série qui arrive, donc c'est une série anglaise au fait.
Ouais, j'ai pas du tout entendu parler de ce truc, c'est quoi?
Ben voilà, c'est sur Sinbad le marin, et j'ai vu des spots publicitaires, ça avait l'air d'être assez bien foutu. Là le budget, c'est marqué 17 millions d'euros.
17 000 roupies.
Ouais, donc voilà, donc par Impossible Pictures.
D'accord. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai eu très peu de temps pour m'intéresser à tout l'univers des séries que j'aime beaucoup. Je t'avoue que j'ai même pas suivi les sweeps, je suis même pas sûr de la moitié des choses qui sont renouvelées pour l'année prochaine ou pas. Non, je suis un petit peu déconnecté ces derniers temps.
Ouais, y a le mec qui jouait Saïd dans Lost qui joue là-dedans d'ailleurs.
Ça c'est énorme.
Donc bon non mais ça a l'air plutôt sympa comme dirait notre ami qui n'est pas là.
Bah, que vous entendrez tout à l'heure.
Hein. Ouais. Oui, pour toutes ces fans en délire, il est là ce soir quand même. maintenant il se manifeste en différé parce qu'il y a trop de fans hystériques sinon.
suis en train d'imaginer la scène en fait en même temps. On termine les news avec cette histoire complètement absurde dont je vous parlais en intro. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Ryan Matheson.
Ouais, je m'inquiète parce que j'en ai pas du tout entendu parler, d'accord.
27 ans, résident des États-Unis, résident du Minnesota, qui est fan de manga, d'animation japonaise. Jusque-là, rien de bien particulier. Ce mec est dans une merde totale, puisqu'il a besoin de 75 000 dollars pour payer des frais de jugement, puisqu'il a été rendre une visite à un ami qui habite à Ottawa, au Canada, en avril 2010.
Ouais. C'est sûr que rendre visite à un ami qui habite à Ottawa, au Canada, ça c'est la merde.
Ah mais là, tu vas voir que ça va virer dans le surréaliste total.
D'accord, bon, alors vas-y, explique-moi. Là les auditeurs sont tout oui.
Vous êtes pendu à mes lèvres. Oui. Et pas de vanne.
Pierre Belmar, on t'écoute. Il va rendre visite à son ami qui habite à Ottawa. Non, mais je sais pas du tout l'imiter.
Non, mais c'était pas mal. C'était pas mal.
Dans, pour dans, une le ton, dans le ton, dans le débit peut-être, mais par contre la voix, je ne sais pas.
Donc il y va pour une petite visite de 5 jours. Hein. Voilà, il va rendre visite à un ami qu'il n'a pas vu depuis 10 ans. Bon, jusque là rien d'extraordinaire. On est d'accord.
Oui.
C'est la première fois qu'il va au Canada. Il sait pas comment ça se passe. Ce monsieur est un programmeur, donc quelqu'un de, on va dire, d'assez geek, quoi. C'est-à-dire avec pas mal d'objets. Il transporte son ordinateur portable avec lui, enfin, chose que l'on fait quasiment tous, hein. De toute façon, en voyage, on part avec son portable. Il se fait arrêter par la douane, qui demande à faire une fouille. N'ayant rien à se reprocher, il leur laisse même fouiller son portable, il leur file le mot de passe pour qu'ils puissent regarder son portable, et c'est là que ça vire au cauchemar total. La fouille de son portable prend 4 heures. Et il trouve des images de manga, que lui a dessiné parce qu'il est aussi un petit peu dessinateur à ses heures perdues, enfin, comme beaucoup de gens, quoi. Beaucoup de gens s'amusent un petit peu à dessiner comme ça pour le plaisir. Et il est accusé de pornographie infantile.
D'accord. Parce qu'il a fait des dessins qui peuvent prêter à...
Mais même pas, en fait. Simplement parce que, au Canada, ils sont très très stricts sur le manga et les comics, en général. Et donc, il a fait des choses que l'on voit dans les mangas qui ne prêtent même pas à confusion, qui ne sont pas du tout de la pornographie infantile, et il s'est retrouvé donc accusé d'avoir essayé d'importer de la pornographie infantile pour deux images sur son ordinateur, une qu'il a dessinée lui-même et un autre d'un manga original, quoi.
Enfin, c'est absurde, mais enfin je sais pas, les gens, je veux dire, il doit y avoir une ça a dû faire le buzz, quoi, tellement c'est...
Et là où c'est encore
spectaculaire,
pire, c'est que cette histoire vient tout juste de se terminer. Tout juste. Il a réussi à gagner un petit peu son procès, à être relâché, mais il a passé plusieurs semaines d'enfer, puisqu'il a été envoyé en prison. Il a été maltraité en prison, surtout. On l'a mis dans une cellule froide, avec, en guise de lit, un espèce de pauvre truc de pierre. Voilà, la prison limite glauque, quoi.
Ouais.
Il a demandé des couvertures, on lui a refusé. On a refusé de le nourrir, quand même. C'est quand même aberrant, quoi.
C'est assez hallucinant, cette histoire. Mais à mon avis, ça va faire une belle adaptation ciné. Enfin, le mec, s'il vend son histoire, maintenant, il est tranquille.
Là où c'est encore pire, c'est qu'on lui a refusé de contacter l'ambassade américaine.
Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce qu'on est sûr de la véracité de tout ça?
Ah oui, non, mais c'est-à-dire qu'il a fait, là, il a remercié, puisque ce qui a pris sa défense, c'est le CBLDF, qui est le Comic Book Legal Defense Fund, qui est justement une association qui aide dans les problèmes juridiques pour les choses qui ont rapport avec le comics.
Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est plus que cette instance qu'il faudrait contacter. C'est carrément, je sais pas, doit y avoir
ils ont réussi à lever
un truc
des
avec les droits de l'homme, etc. Enfin, je sais pas comment c'est chez eux, mais il y a quand même, pour une histoire de dessin, c'est quand même bizarre.
Et ouais, non, mais c'est qu'apparemment la législation canadienne est très très stricte sur ce genre de choses. Mais comment le savoir quand on connaît pas, quoi? On pouvait pas s'en douter. Lui ne pouvait pas s'en douter en y allant, quoi. Donc, 75 000 dollars de frais juridiques qu'il a payé quand même. Alors, le CBLDF a réussi à lever 30 000 dollars de fonds, déjà, pour l'aider à payer tout ce qu'il doit. On a aussi le CLLDF, qui est une association canadienne, qui est le Comic Legends Legal Defense Fund, qui est un petit peu la même chose que le pendant américain, qui a réussi à lever 11 000 dollars. Donc il manque encore 34 000 dollars pour l'aider à payer ses frais de justice. Hein. Alors là où c'est encore pire, c'est quand même qu'il a réussi à être libéré sous caution, etc. Donc il a pu reprendre une vie à peu près normale. Mais quand même, les conditions de sa libération sous caution étaient vraiment drastiques. C'est quand même quelqu'un qui est un programmeur, donc qui passe sa vie sur un ordinateur, logique.
Ouais.
Eh bien, ce monsieur avait interdiction de toucher à un ordinateur, hormis pour son travail, enfin sur le lieu, sur son lieu de travail. C'est-à-dire qu'il avait interdiction d'avoir une ligne internet, interdiction d'avoir un ordinateur chez lui, et ce pendant 2 ans.
Ah d'accord, non mais parce que ça dure depuis vraiment très très longtemps.
Mais c'est depuis 2010 en fait que cette histoire lui est arrivée. Et elle vient tout juste de se terminer. Non mais vraiment on hallucine. Donc si jamais vous avez un petit peu d'argent, que vous voulez aider un petit peu, vous pouvez vous rendre sur le site de la CBLDF, le Comic Book Legal Defense Fund. Je mettrai un lien sur le site. Et puis vous pouvez donner un petit peu pour aider ce monsieur qui finalement n'a rien fait de mal du tout.
D'accord. Okay. Mais
c'est un fan de bande dessinée.
C'est une histoire de fou.
Tant d'autres. J'ai complètement halluciné en voyant cette histoire et j'avais envie de la partager avec vous parce que, je suis outré qu'à notre époque, on puisse encore, voir le manga ou le comics comme des choses qui pervertissent la jeunesse, quoi. C'est plus les années 50, on n'est plus.
Enfin, là, c'est plus que ça, quoi. C'est comme si le mec faisait un trafic de drogue ou comme s'il allait invoquer Satan ou je sais pas. Enfin,
Mais complètement, quoi.
C'est juste hallucinant, mais. S'il a de la chance, ça fera une jolie adaptation ciné. Les gens vont acheter, les producteurs vont acheter les droits pour produire ça au cinéma parce que c'est juste hallucinant comme histoire. Et puis au pire, il aura son biopic par Blue Water. Là, je pense que ça terminera de l'achever.
Non, mais moi je suis complètement outré, quoi. C'est-à-dire que si encore ils avaient trouvé, 150 images qui pouvaient prêter à confusion,
oui,
d'accord,
oui,
mais là deux, quoi.
Non, puis en plus, c'est des dessins, c'est...
Un dessin fait par lui et un dessin, tiré d'une vraie page d'un manga.
Est-ce que tu les as vus, les dessins en question?
Non, je les ai pas vus. Je les ai pas cherchés. Il y a aussi, disponible sur le site. Alors, bien sûr, c'est en anglais. Il y a toute une lettre que Ryan a écrite pour remercier tous les gens qui se sont mobilisés pour lui et pour raconter lui son histoire, en tout cas sa version de l'histoire. Et c'est vraiment, c'est hallucinant.
En tout cas, une chose est sûre avec tout ce que tu me dis, je sais que si je vais un jour aux États-Unis ou même au Canada,
c'est au Canada.
Je prendrai peut-être pas mon portable parce qu'à mon avis, ils trouveront plus qu'une image bizarre. Voilà. Fin de la parenthèse.
Je ne veux pas savoir ce qu'il y a sur ton portable, dis donc.
Non, mais je déconne. Mais...
Non, quand mais à ce moment-là, il suffit de refuser de leur donner ton mot de passe.
Quand je vois déjà ce que ça lui a apporté avec, comme tu dis, deux petites images comme ça, je me dis, on sait jamais.
Non, mais le pire, c'est que le mec était de toute bonne foi, quoi. Il a donné volontairement son mot de passe, puisque on l'a fouillé. Bon, il a trouvé ça un peu bizarre.
Est-ce qu'il aurait pu refuser de donner son mot de passe?
Ah, bien sûr. Lui, il l'a fait de bonne foi. On lui a demandé s'il voulait donner son mot de passe. Ils avaient pas de mandat, quoi. Il pouvait très bien dire non, je ne vous donnerai pas mon mot de passe. Je veux un avocat, etc.
Ouais. D'accord.
Il l'a fait parce qu'il n'avait rien à se reprocher. Donc, puisque t'as rien à te reprocher, tu laisses faire. Sachez que si vous allez au Canada, ne donnez pas votre mot de passe pour qu'on allume votre ordinateur.
Ouais. Contactez un bon avocat, très vite.
Et contactez votre ambassade.
Ouais.
Non, mais alors, je ne sais pas, parce que je sais que le Canada est un État aussi fédéral. Donc, il se peut que dans certains États du Canada, ça se passe comme ça et qu'il y ait des lois différentes ailleurs. C'est peut-être pas comme ça quand on va au Québec par rapport à Ottawa. Bref. Bon, sur ce, c'est la fin quand même de notre énorme partie de news, parce que
je ne pensais pas qu'on ferait autant.
Mais c'est aussi sympathique de commenter un petit peu l'actualité du comics quand il y en a, parce que ces dernières semaines, c'était quand même relativement pauvre.
C'est vrai que là, cette semaine, il y a eu beaucoup d'annonces d'un seul coup, mais le salon, la Comic-Con arrive.
Ouais, la Comic-Con se prépare. Donc forcément, il y a des fuites. On passe maintenant au review avec le focus de la semaine, c'est le Justice League numéro 10, scénarisé bien sûr par Geoff Johns, comme d'habitude, avec Jim Lee au dessin. Ça, c'est pour la partie principale, pour le backup, c'est toujours Geoff Johns et Gary Frank, le backup sur Shazam. On commence par l'histoire principale, ce fameux David Graves attaque. On
pourrait un peu décevant parce que justement, je m'attendais à ce qu'il les attaque, mais plus en ce soit plus vicieux et plus je trouve pas le mot. Mon Dieu, c'est terrible.
Moins direct, quoi.
Ouais,
voilà.
Moins direct, parce que là,
il va comme un beau
gros méchant qui a une tête de gros méchant qui arrive avec des super pouvoirs et qui maîtrise toute l'équipe en 2 secondes. Ouais, j'ai été déçu. Honnêtement, j'ai vraiment été déçu. Je m'attendais à un truc un peu plus intéressant. Là, il se passe pas grand-chose. C'est vraiment, on sait qu'il est puissant. On sait que bon, apparemment, il a des raisons de leur en vouloir et que c'est lié à sa famille. C'est juste un petit peu étonnant. Bon, ces raisons sont un petit peu étonnantes puisqu'on imaginait le contraire.
Bah, c'était déjà expliqué, de toute façon, c'est les raisons dans les derniers numéros, enfin tout au long des derniers épisodes, on avait déjà un peu cette explication de pourquoi il leur en voulait autant.
Bon, voilà, je suis pas convaincu par ce personnage, en fait. J'ai été assez déçu, puis alors Jimmy, excuse-moi, mais là.
Ah bah il speed, hein. On sait qu'on comprend aussi pourquoi il va quitter le titre, je pense qu'il ne peut pas suivre les délais. Il y a beaucoup de pages qui sont assez vides, des splash pages qui sont loin d'être aussi travaillées que ce qu'on avait eu pour les premiers épisodes.
Ah, totalement. Enfin, là, franchement, c'était du petit Jimmy, hein. Il y a vraiment des pages où les personnages sont moches. Il y a du Gimli vraiment pas terrible là-dedans, quoi. Quel dommage.
Une chose, moi, que j'ai quand même bien aimé, c'est la façon dont ce David Graves va mettre à genoux l'équipe. Bon, son pouvoir est simplement de faire ressortir les plus grandes peurs des ennemis, des gens qu'il combat. Donc, jusque-là, rien de bien novateur, très classique. C'est juste la façon dont c'est mis en scène. C'est-à-dire que l'on voit la grande peur de Wonder Woman, hein, qui est le fait de pouvoir sa mère, bon, peu importe.
D'avoir de la barbe, au fait.
Ce qui est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ensuite la façon qu'il met à genoux l'équipe, c'est-à-dire que il leur fait le même pouvoir un petit peu à chacun, mais on ne voit pas leur plus grande peur. On voit que les siennes, ce qu'il a vécu lui, ses plus grandes peurs à lui, David Graves. Donc, Geoff Jones se laisse de la marge de manœuvre, puisqu'on a tous une idée, on les connaisse tous par cœur, ces personnages. On se doute bien que pour Batman, ça va être la mort de ses parents,
Ou
pour
les raviolis.
Superman, ou les raviolis, puisque on sait très bien que c'est la kryptonite de Batman. Chacun
Exactement.
sait.
Exactement. Les raviolis Turbeuf.
Ça lui rappelle d'ailleurs cette fameuse nuit dans Crime Alley.
Exactement. Pleine de sauce tomate butoni. N'importe quoi.
Putain. Donc là où c'est intéressant, c'est vraiment parce qu'il n'a pas mis en scène ses peurs. Donc finalement, on peut jouer avec ça puisque c'est un relaunch, les personnages sont censés avoir un petit peu changé. Peut-être que ce n'est pas ces peurs-là, les peurs classiques qu'on a l'habitude de connaître pour ces personnages-là, qu'ils ont vues. Et donc, ils se laissent un petit peu de marge de manœuvre pour pouvoir changer quelques petits éléments par la suite. J'ai
Oui,
trouvé ça inventif, en fait. Pour moi,
ouais,
peut-être la seule bonne idée, quoi.
moi globalement, je suis très déçu quand même par cette seconde partie, aussi bien d'un point de vue graphique que du point de vue du scénario.
Par contre, une petite question, juste pour toi, comme ça. Moi, quelque chose qui m'a choqué à la lecture, sur les premières pages. T'as pas eu l'impression d'avoir déjà lu le début? Ça t'a rien rappelé? La façon dont Graves va découvrir ses pouvoirs?
Ça m'a rappelé Batman des épisodes de Batman The Dark Knight. Non, non, Legends of the Dark Knight. Mais alors tu penses peut-être pas du
Ah
tout à
non, je ne
ça.
pensais pas du tout à ça. Je pensais à 52, en fait.
Oui, alors aussi nom d'à part Bat.
Bah oui, puisqu'on nous dit que c'est au fin fond des montagnes de l'Asie centrale. Ça ressemble énormément à Nanda Parbat et à The Question, qui atteint du cancer, partait avec René Montoya
Tout à fait.
essayer d'être sauvé. Finalement, ce qui ne marchera pas. Sauf que là, ça a l'air de marcher, ça l'a sauvé, mais ça l'a corrompu.
Oui, puis ça a forcément un lien, puisque The Question, on le retrouve dans la fameuse Evil Trinity.
Oui, par exemple.
Et là, le côté magique est très mis en avant, donc à mon avis, ça a un lien, enfin c'est même certain, quoi, maintenant que tu le dis,
Pour moi, ça
effectivement.
fait très ressuscité, en fait. Geoff Jones réutilise les mêmes idées qu'il a déjà utilisées il y a de ça 5 ou 6 ans.
En même temps, oui et non, c'est quand même intelligent, et puis enfin faut bien qu'il construise son histoire à partir de points existants, quoi. Donc,
Ouais, enfin, pour moi, c'est le même concept de départ, quoi. C'est-à-dire qu'il reprend cette idée-là en se disant peut-être que certains ont déjà oublié 52 ou ne l'ont pas lu. Bah, il y a
Oui,
des
c'est
gens
sûr
qui
que
l'ont
si
lu,
ça se
quoi.
résume à un grand méchant qui, au fait, a des pouvoirs, enfin, qui s'en sert pour faire le mal, au lieu de faire le bien après être allé là-bas, bon, effectivement, je sais pas.
Ben, je sais pas, moi ça m'a vraiment fait penser à ça quoi, quand j'ai lu ça. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si toi aussi t'y avais pensé ou si je suis le seul. C'est tout. On va quand même passer au backup, qui alors lui est très très bon.
Ah,
Il
je
est
croyais que t'allais
toujours de
dire
toute façon.
que c'était très, 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 très chiant ou très, très
Ah
mauvais.
non, c'est toujours la meilleure partie de Justice League, c'est là que c'est quand même un petit peu désolant. Le retour de celui que tout le monde attendait.
Ouais, on va dire ça comme ça. Qui n'est pas Shazam, d'ailleurs.
Donc devinez. Pas dur, hein.
L'autre côté, quoi.
C'est pas très dur. Non, c'est bien mis en scène. On comprend un petit peu plus la motivation de ces parents d'accueil pour Billy Batson. Pourquoi ils accueillent autant de gens, enfin, d'enfants de familles différentes qui n'ont plus leurs parents. Il y a beaucoup plus d'avancées dans ces 12 pages à peu près que dans les 20 de la Justice League.
Et puis ça met autant de temps à lire, hein, finalement, à chaque fois. Quasiment.
Oh, c'est plus rapide là, comme parce qu'on a pas mal de scènes sans dialogue, hein, où on voit juste
C'est
Billy
vrai que
marcher.
cette fois-ci, mais même les dialogues sont quand même un peu plus amples que dans Justice League généralement, quand même.
Mais il est beaucoup plus à l'aise là-dessus. Je pense que la Justice League, il a eu les yeux plus gros que le ventre en voulant l'écrire.
Bah, il a des choses à raconter, là on sent que vraiment il pourrait limite faire un titre Shazam unique. Bon, ils l'ont pas fait parce que ils ont peut-être pensé que ça n'allait pas avoir le succès escompté, mais quand même, hein, Geoff Jones, Gary Frank, je pense qu'ils auraient pu y aller.
Après ça, ils peuvent lancer la série, il n'y a pas de doute.
Oui, c'est certain.
Mais je pense qu'ici, s'ils l'ont intégré ici, c'est parce qu'ils savent que c'est extrêmement bon et que Justice League n'est pas si bon que ça. Voilà, c'est l'argument pour faire vendre.
Ouais, en même temps, je pense que certains iront juste sur Justice League pour Jim Lee. Et seront peut-être déçus d'ailleurs, puisque là, il ne sait plus le niveau qu'il avait durant le premier arc, c'est sûr et certain. C'est d'autant plus dommage qu'il a eu du temps en plus.
Mais oui, il a pris 2 mois de repos, hein, pourtant. Il y a eu 2 mois où c'était pas lui, hein, qui dessinait. Donc bon, bah ouais, c'est malheureux, quoi. C'est malheureux de voir ça. Note finale.
Tout petit bail. Gros
Pareil
check-it.
pour moi, ouais.
Voilà.
Tout petit bail. C'est un bail quand même, mais c'est pas la meilleure lecture de la
Bah,
semaine,
c'est
hein.
un bail pour Shazam.
Oui, voilà. Pour Shazam, oui, c'est clair. Bah, on va passer d'une Justice League à l'autre, et c'est toi qui vas nous en parler.
Oui, Justice League Dark. Alors, Justice League Dark par Jeff Lemire et Michael Hanin. On avait quitté la Justice League Dark au moment où ils avaient retrouvé cette fameuse boîte qui contient tous les secrets mystiques de la Terre, de l'univers, etc. Et puis une certaine carte de pareil tous les endroits liés à la magie. Et c'est juste énorme, puisque John Constantine et son équipe se rendent où ça? Ils se rendent à la fameuse House of Mystery. La House of Mystery qui a comment dire, une sœur jumelle, enfin c'est-à-dire une maison jumelle qui est la fameuse House of Secrets.
Ah, ils ont repris tous les vieux concepts, quoi,
Et
c'est génial.
oui. Enfin, Jeff Lemire est très fort. Et
Oui, mais ça fait des années que je le dis à tout le monde.
ouais, non, mais enfin, moi je te crois depuis des années. Hein. J'avais beaucoup aimé Superboy. Donc Justice League Dark depuis qu'il est arrivé, c'est-à-dire depuis l'avant-dernier épisode, c'est très très bon. C'est vraiment la série à lire.
Mais j'ai pas encore sauté le pas, moi, pour ma part.
Ah bah c'est bourré d'humour. Non, franchement, c'est le moment d'y aller. John Constantine est toujours au top. C'est vraiment un personnage super attachant, même s'il est détestable. Enfin, tu m'as compris, quoi. C'est un petit peu
Oui,
comme...
c'est le anti-héros de base, quoi.
Voilà. Et en plus, il se passe beaucoup de choses. Ça avance vraiment en 20 pages, puisque je crois que c'est 20 pages hein, chez DC maintenant.
Ben, même chez Marvel maintenant, c'est 20 pages partout.
Voilà. On en a vraiment pour son argent. On passe un bon moment. Michael Ranin nous fait des dessins toujours très très bons. Voilà, bon, que dire de plus si ce n'est que c'est le gros bail de la semaine pour moi. C'est la meilleure lecture, généralement l'une des meilleures lectures du mois aussi en ce moment. Gros gros coup de cœur quoi, Justice League Dark.
On continue avec le Amazing Spider-Man numéro 688. C'est scénarisé par Dan Slott avec Giuseppe Camuncoli au dessin, ancré par Klaus Janson. Un Giuseppe Camuncoli très bon sur les scènes de Spider-Man, du lézard, etc. Un peu moins bon quand il s'agit de dessiner le visage de Peter Parker. Honnêtement, il y
C'est
a des moments.
un peu particulier, ouais.
Ben non, mais il y a des pages où il n'est pas constant en fait. Il y a une page notamment, il a une tête toute écrasée. Enfin, on dirait un petit gros.
D'accord.
Et c'est même pas consistant avec la case que l'on a juste en dessous où il est dessiné totalement différemment, quoi. C'est limite, on reconnaît pas le personnage. En plus,
D'accord.
il lui a fait un petit nez rouge, là, on dirait qu'il est complètement pété. C'est vraiment zarbi. Mais bon, hormis le visage de Peter Parker sur certaines cases, le reste est quand même vraiment très joli et le lézard et Spider-Man sont vraiment très bons.
Ben, j'ai remarqué que beaucoup de dessinateurs maltraitaient quand même pas mal Peter Parker, quoi. À chaque fois, il lui colle une tête assez particulière.
Ah ben, rappelle-toi Mike Sciumara. Qui
Ouais,
avait
ou
une
bien
tête vraiment
alors,
bizarre.
je sais plus celui qui avait dessiné le dernier arc avant Big Time là.
Oula, là comme ça à froid,
Oui, non,
ça me revient pas.
je sais plus, mais en tout cas, voilà, ils avaient fait des Peter Parker bizarres. Enfin bon, c'est pas la
Alors,
première fois, quoi.
l'arc s'appelle No Turning Back. Comme je l'ai dit, c'est Spider-Man contre le lézard. Ça coïncide avec la sortie du film, j'ai envie de dire un petit peu le hasard comme par hasard.
Ouais.
Sauf que cette fois-ci, c'est un combat à mort entre Spider-Man et le lézard. Il a décidé de se débarrasser du lézard parce qu'il en a ras-le-bol.
Non,
Il
mais
y a
attends, c'est
un
bizarre.
énorme
Non, non, attends, attends.
petit twist.
Non, non, mais
Vous
attends,
le
mais
verrez.
comment ça, il a décidé de se débarrasser du lézard. Spider-Man ne tue pas.
Ah, et ben justement, c'est l'intérêt de cet épisode, c'est qu'il y a un joli twist aussi.
Oui, bon, alors tuer le lézard, mais pas Connors, quoi. Enfin, voilà, un truc comme ça, quoi.
peut-être. Peut-être
bah,
pas.
Même sûrement, je veux dire, bon.
Il va être aidé, on va avoir un petit guest de Morbius aussi qui revient dans la série. Non, franchement, un bon épisode avec un twist final qui, même si on s'y attend, fait son effet. Et à noter quand même qu'il y a une scène qui m'a vraiment fait marrer, c'est que, après avoir sauvé le monde à la fin du dernier arc, hein, Ends of the Earth, Mary Jane décide de faire une grosse fête puisque maintenant elle est propriétaire d'une boîte de nuit.
Et d'accord. Ok, c'est vraiment la party girl, quoi.
Et à fond, quoi. Et en fait, elle apprend à Peter que elle et Carly sont devenues potes. Donc en fait, ces deux ex sont super potes. Elles connaissent toutes les deux le secret de Peter Parker, hein, qui est Spider-Man, et donc elles peuvent partager un petit peu ce poids sur leurs épaules et se refiler.
J'avais
quelques
même conseils. Oublié que Carly elle avait découvert, mais c'est vrai, elle l'a découvert durant Spider-Island, il me semble.
Et oui, ah oui, c'était à la fin du 675 qu'elles sont devenues copines. Et donc pendant qu'il est dans la boîte, Peter reçoit un appel de Carly qui lui dit il faut que tu viennes parce que là je crois que ça va vraiment intéresser Spider-Man. Et justement elle lui dit bah vas-y, Carly a besoin de toi et comprend qu'elles sont potes, quoi. Et ça lui fout un petit peu les boules et ça m'a bien fait marrer d'ailleurs.
Okay.
D'avoir ces deux ex ensemble un petit peu contre lui, quoi, en quelque sorte. Donc un bon épisode, moi j'ai envie de dire un bail, quoi.
D'accord, bah, je parce sais que tu aimes beaucoup Spider-Man actuellement,
parce que c'était sympa.
Moi ça m'ennuie grandement, quoi.
Seul défaut, c'est la narration que je n'aime pas, c'est-à-dire on commence, on est en pleine action, et après ça revient un petit peu en arrière avec 8 heures avant.
Bien sûr.
Cette narration à la J.J. Abrams, ça me gonfle un peu. Mais bon, ça a son petit effet parce qu'on comprend pas tout au début, et justement c'est tout l'intérêt de l'épisode aussi.
Enfin, c'est pas J.J. Abrams maintenant qui a inventé non plus le flashback, hein.
Non, mais c'est qu'il a tellement utilisé dans Alias et partout d'ailleurs que c'est un peu chiant. On continue, bah justement, d'un Spider-Man, on va passer à deux Spider-Man avec le Spider-Man numéro 2.
Ouais.
T'as vu quelle belle transition magnifique.
Oh là là, et puis en plus, que de jeux de mots, de... Voilà, de boules de cotillon dans tous les sens.
C'est écrit par Brian Michael Bendis avec Sarah Piccelli au dessin. Bah écoute, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Benny?
Bon épisode, c'était sympa, comme dirait notre ami. Non, mais enfin voilà, c'était surtout beau. Honnêtement, là, Sarah Piccelli au dessin, c'est une véritable petite œuvre d'art à chaque page.
Ah ouais,
quasiment,
non, c'est très propre.
Quasiment.
Enfin, c'est très 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 propre.
Propre, ça pourrait porter presque à confusion. C'est pas du tout péjoratif, hein. C'est vraiment. Enfin, c'est classieux, quoi. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien fait. Et donc rencontre enfin entre
bon,
Peter Parker.
À mon goût, il faut qu'elle retravaille encore un peu le visage de Peter. Mais...
Ouais, parce qu'elle a peut-être tellement l'habitude de dessiner la version Ultimate qu'elle a un petit peu des difficultés à le faire version adulte, quoi.
Ouais, voilà. Bah, quand il enlève son masque, parce qu'après, quand il est sous le costume. Là encore, une fois de plus, c'est magnifique. Hein.
Ouais, tout à fait. Donc voilà, cette confrontation est assez spectaculaire, assez drôle. Ils utilisent leurs diverses facultés l'un sur l'autre.
Ce qui permet de découvrir les deux quand on ne connaît pas l'un ou l'autre, pour ceux qui ne lisent que Ultimate ou ceux qui ne lisent que Amazing.
Ouais. Moi, ça m'a fait penser à un arc de Friendly Neighborhood Spider-Man qui était écrit par Peter David où Spider-Man croisait la route du Spider-Man 2099.
Putain, tu remontes loin quand même.
Ouais. parce que voilà, c'était c'est exactement le même thème au fait.
Bah, de toute façon, c'était Peter David forcément qui allait placer son Spider-Man 2099, c'est lui qui l'a créé.
Voilà, et c'était exactement le même thème, c'était le Bouffon Vert en fait, enfin l'un des descendants du Bouffon Vert. C'était même pas le 2099, je crois que c'était même le ça partait plus loin, qui remontait le temps et qui voulait tuer toutes les versions de Spider-Man. En fait, voilà, c'était l'idée. Un petit peu comme The One, quoi, le fameux
oui,
film.
Oui, oui.
Jet Li, une référence absolue. Hein.
Mais on n'arrête pas de la citer, mais c'est tellement utilisé dans les comics aussi.
Mais c'est vrai, voilà, donc c'est pour ça. Et donc, effectivement, là, il y a Mysterio. Alors, bah, dis-moi si je me trompe, mais on sait pas trop, en fait, si c'est uniquement le Mysterio de l'univers Ultimate qui a réussi à se retrouver dans l'univers classique, ou s'il y a bien qu'un seul et même Mysterio depuis le début.
Pour moi, il y a qu'un seul et même Mysterio qui envoie des espèces de robots qu'il contrôle à distance.
Ouais, on a l'impression, parce que...
C'est ce que je comprends en regardant ses premières pages. Hein. C'est pas un spoil de le dire, c'est les premières pages. Donc,
Ouais, ce qui est classique, et effectivement, il envoie un avatar dans l'univers Ultimate. Mais par contre, ce serait intéressant que je lise, parce que je les ai pas lus ces épisodes dans l'univers Ultimate, où Mysterio apparaît. Puisque je sais pas comment c'est fait, comment c'est expliqué.
Alors, est-ce que Bendis avait déjà prévu le coup? Bah ouais, faudrait relire. Moi, je les ai pas lus. Donc,
il te dira que oui. Il dira.
Non, enfin, nous, on peut arriver à se faire notre propre idée maintenant en voyant les indices. Donc, est-ce qu'on peut arriver à comprendre? Est-ce qu'on voit qu'il est déjà placé?
La première page de Secret Avengers, quand il est arrivé sur Avengers, bien sûr, tout le monde le sait.
Il y a une page qui m'a fait mais exploser de rire, vraiment. C'est cette page quand Peter Parker est détenu par le Shield et qui dit à Nick Fury, est-ce que je peux te poser une question hypothétique? Donc on est sur une double page avec narration traditionnelle, hein, très Bendis, des petites bulles, des je te réponds, je te parle, enfin voilà. Et là, donc Nick Fury dit vas-y. Et on se retrouve avec une
Ouais.
bulle, enfin une case qui fait la moitié de la page et une bulle qui prend une taille mais monstrueuse avec une police d'écriture toute petite et un texte, je crois que Bendis n'a jamais écrit autant de textes en une seule bulle.
Ouais,
D'ailleurs,
ça
je crois que
c'est.
pas beaucoup de monde n'ont écrit autant de textes dans une seule bulle.
Ouais.
Et franchement, ce moment m'a fait marrer. Quand j'ai tourné la page, que j'ai vu ça, j'étais mais mort de rire. C'est vraiment un effet comique qui marche tout de suite.
Bah là, il a brisé aussi le quatrième mur et même le cinquième, le dixième et le, enfin voilà quoi. Il en a brisé une centaine en même temps avec cette référence. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ça coïncide comme par hasard au moment où le Nick Fury, même de l'univers classique, a la tête de
Oui, mais
celui de l'univers
ça,
Ultimate.
Peter ne le sait pas encore.
Mais ça, Peter ne le sait pas encore.
Mais
Alors
personne ne le
justement,
sait quasiment.
quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça aurait été aussi drôle qu'il le sache, puisque dans ce cas-là, rien ne l'aurait fait dire qu'il était effectivement dans un univers parallèle, puisque il se
Bah,
retrouvait.
il y a quand même le
C'est vrai qu'il y a
Triskelion.
le Triskelion, qui a rien à foutre là. Bien alors, il s'est passé un truc et le Triskelion est apparu, un peu comme Onslaught est apparu d'un seul
Oh,
coup.
les références.
Non, mais faut je pensais à ça parce que voilà quoi, c'est tout l'espèce de gros vaisseau spatial, tu sais, quand ils étaient partis pour les guerres secrètes. Enfin, ça me fait
Oui,
penser à ça,
oui.
quoi, tu vois, le
Ou même
truc qui
Asgard,
apparaît.
hein, tout simplement. Asgard dans Minnesota qui est apparu au-dessus de la
Enfin
Terre.
voilà, oui, exemple, les exemples sont multiples, donc à la rigueur, ça aurait été admissible. J'aime bien comment on part dans des discussions de geek. Oui, l'apparition du Triskelion aurait été admissible selon la page 48.
Mais en même temps, enfin, on va pas renier, on est des geeks, quoi. Enfin voilà, on lit du comics depuis maintenant. Trop d'années pour oser le dire. Et voilà, c'est normal, quoi. Bah justement, un bail pour toi le Spider-Man 2.
Oui, quand même, oui, bien sûr, ouais, on
Bah,
va
c'est
aller.
vrai que par rapport à ce premier épisode où on restait un peu sur notre faim parce qu'on
C'est
savait
quand même
déjà
beaucoup
tout,
mieux.
là il se passe vraiment des trucs. Peter agit un petit peu comme un connard. Il a une ou deux réactions que j'ai pas forcément bien comprises.
Ouais, alors ça me fait un peu peur, ça, par rapport à comment Bendis va écrire les X-Men, puisque
Bah, c'est le champion de changer un petit peu la caractérisation des personnages, hein.
Oui, bah, c'est vraiment son style, donc peut-être que Cyclope, s'il est toujours en vie, deviendra super sympa, et que, je sais pas, un personnage d'habitude super
Comme
sympa, genre.
Wolverine, ouais, deviendrait un vrai connard.
Qui ça?
Wolverine, par exemple.
Ah, Wolverine, quelquefois, il est quand même super chiant.
Bah, il le fait passer pour un mec qui passe son temps à bouffer, quoi, à bouffer et à
Enfin,
boire.
Wolverine, enfin, Bendis l'écrit déjà depuis des années, finalement.
Oui, mais maintenant qu'il aura un peu plus la mainmise, puisque c'est lui qui dirigera, parce qu'on va pas se leurrer, hein, même s'il écrit qu'une série sur les X-Men, c'est quand même lui qui va diriger l'univers X-Men.
Bah
Hein.
ouais, bah en même temps,
C'est
quand on est
Brian
chaud, un
Michael
peu comme le
Bendis, quoi.
professeur Xavier, c'est normal.
Ouais, bah, peut-être nous remettra-t-il le professeur Xavier. Ça serait pas mal.
Oui, peut-être que les dessinateurs vont dessiner le professeur Xavier avec la tête de Bendis. M'étonnerait pas du tout.
Finalement, ce serait pas si loin que ça.
Non, mais c'est ça, enfin voilà,
Oui, ce serait assez réaliste. Donc un bail pour tous les deux et puisque c'était le coup de cœur de King Ed qui nous a fait un Unspoken sur le site que vous pouvez aller lire, hein, qui est sorti hier au moment où on enregistre, eh bien nous allons diffuser le coin de King Ed, la petite séquence que j'enregistre avec lui un petit peu avant d'enregistrer ce podcast, puisqu'il ne pouvait pas être là.
un coin dans lequel toutes les fans hystériques qui écoutent nos podcasts depuis quelques semaines aimeraient être, du coup. C'est vraiment l'endroit idéal, quoi. Un endroit qui fait rêver. On gagnera, peut-être qu'on fera un concours un jour pour gagner un
Une
voyage
nuit,
dans le coin de King Ed, voilà.
une nuit d'amour avec King Ed.
Bah, je pense que ça pourrait nous ramener une quantité d'auditrices phénoménale, puisqu'on a beaucoup d'auditeurs, mais malheureusement très peu encore d'auditrices, hein. Les fans de comics en France, en tout cas, ne nous écoutent pas encore en masse. Il doit y en
Enfin,
avoir quand même.
mais il y en a, hein, il y en a de plus en plus d'ailleurs, de
Il y en a de
fans
plus en
au
plus, donc
féminin.
c'est très bien. Mais voilà, mais faut qu'elle connaisse King Ed. Une fois qu'on connaît King Ed, c'est quoi? Bah,
Je ne
signez le
sais plus, je ne
concours,
sais plus
signez le
comment
concours. Je
rebondir.
suis sûr qu'il sera d'accord en plus.
On se retrouve donc juste après le coin de King Ed pour la fin des reviews de la semaine. Voilà, on vous l'avait promis, voici le petit coin de King Ed, on va l'appeler comme ça pour cette semaine, qui donc, comme je le disais au début, n'a pas pu enregistrer l'émission avec nous. Bienvenue King Ed.
Oui, salut Steve.
Tu vas bien?
Bah ouais, très très bien. Ça me fait plaisir de quand même pouvoir donner mon avis sur quelques lectures de la semaine.
C'était fait pour ça, justement, ce petit coin de Kinghead, c'est.
Bah ouais, c'est une très très bonne idée.
Eh bien écoute, on va commencer par ta petite sélection de la semaine, le Teen Titans numéro 10.
Toujours Scott Lobdell au scénario, donc le meilleur scénariste de Sam. Brett Booth au dessin. C'est la suite en fait de Superboy de ce mois-ci que j'avais plutôt bien aimé, où on voyait Superboy et Wonder Girl sur une île un peu étrange avec des dinosaures. Et donc à la fin, en fait, ils se rendaient compte qu'ils étaient dans une sorte d'île mystique où en fait il y avait des trappes qui leur permettaient de passer dans différentes zones. Ils ne sont pas seuls, en fait, il y a tout le reste des Teen Titans qui sont aussi sur cette île. Donc on retrouve Red Robin, Bart Allen et compagnie qui ont survécu à The Culling. J'ai trouvé l'histoire plutôt sympa. C'était les retrouvailles un petit peu. Bon, par contre, au niveau du scénario. Le côté mystérieux de cette île, on en apprend finalement très peu. Il y a une petite pirouette scénaristique qui leur permet de s'en sortir, que j'ai trouvé peut-être un petit peu facile. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis en avant un des personnages des Teen Titans qui est vraiment les plus intéressants depuis ce relaunch. C'est le personnage de Danny LaRue, qui en fait est une rue qui a des pensées, qui est capable de créer des magasins. Enfin, c'est pas un être humain en fait. Et
C'est
donc là.
ça.
Ouais, non, c'est très arbre. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas une création des New 52. C'était quelque chose qu'on avait déjà vu dans Doom Patrol, en fait. Et c'était déjà
Pourquoi un
justement.
concept comme ça ne m'étonne pas que ça vienne de la Doom Patrol?
Voilà, ouais, c'est ça. Et donc, c'est une rue qui est capable de penser. C'est un concept un petit peu bizarre et.
Création de Grant Morrison, j'imagine, ça va être de sa période
Alors,
sur la série, j'imagine.
c'est possible. Ça, je ne sais pas.
Bon bah ça m'étonnerait pas qu'un mec comme lui crée un concept aussi fou.
Ouais, c'est ça. Mais alors c'est amusant parce que c'est un concept qui est assez proche de quelque chose d'autre dont je vais parler un petit peu plus tard sur l'univers Ultimate. Mais bon, donc voilà, je vais pas aller
Ok.
plus loin. Au niveau des dessins, Brett Booth, il y en a qui aiment. Moi, il y en a d'autres qui détestent. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui trouvent que c'est plutôt sympa. Il y a des très belles splash pages. Bon, c'est divertissant et à la fin, il y a une page qui nous montre un petit peu vers quoi ça s'oriente la suite de Teen Titans. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais ça reste juste un check-it.
Ok.
Voilà.
Tu vas maintenant nous donner ton avis sur Aquaman.
Oui, alors vite fait parce que je sais que vous allez sans doute en parler aussi également, mais bah Aquaman, Geoff Johns, Ivan Reiss, Joe Prado, donc toujours une super team. Cet arc qui est la confrontation entre Aquaman et Black Manta, ça avance toujours à 200 à l'heure. C'est toujours aussi bien dessiné, ça se lit toujours aussi vite, ça je pense que vous allez le dire aussi également. Mais bon, on a un petit côté un peu plus black sur Aquaman,
Manta.
qui est un peu plus dark, oui, pardon.
Oh, non. C'était vraiment la vanne pitoyable, hein,
J'avoue.
Remue le couteau, vas-y.
Bon bah c'est un vrai bail quoi, parce que c'est tout cet arc qui est vraiment passionnant. C'est toujours pareil, ça se lit un peu trop vite, on en veut toujours plus, mais bon, un gros bail et vivement la fin pour savoir où est-ce que ça va nous mener tout ça, quoi.
Alors la série que tu es le seul à lire, le High Vampire.
Et oui, bah oui, il faut bien que je vous parle un peu de cette série parce que c'est une des séries que j'aime bien lire et qui n'a pas beaucoup de succès aussi bien au niveau vente qu'au niveau critique. Pourtant, c'est plutôt solide, donc toujours la même équipe depuis le numéro 1. Ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie parce qu'il y a vraiment une continuité artistique. Donc Joshua L. Fialkoff au scénario et Andrea Sorrentino au dessin. On avait laissé justement les amis du héros Andrew Bennett rencontrer un nouveau groupe qui s'appelle l'Ordre de Van Helsing. Donc on se doute que c'est pas vraiment des gens qui sont sympas avec les vampires. Mais Andrew Bennett les avait envoyés pour discuter avec eux, pour essayer peut-être de trouver un moyen de s'entendre, mais ils le voient pas vraiment comme ça. Donc voilà, on va les voir arriver et essayer de mettre un peu la misère aux vampires. Et en parallèle, on a Andrew Bennett qui se fight toujours contre sa dulcinée. Donc il y a toujours cette tension entre les deux personnages qui à la fois s'aiment et se détestent pour savoir qui va contrôler les vampires. Ça donne surtout en fait une narration vraiment intéressante sur ce numéro, puisqu'en fait on a un dialogue entre justement l'ami de Andrew Bennett qui est donc John et le chef de l'ordre de Van Helsing, et le tout avec derrière les combats entre Andrew Bennett et Marie. C'est assez philosophique leur discussion. Il y a pas mal de métaphores. J'ai trouvé ça vraiment intéressant et j'ai bien aimé la mise en scène. Et ça se termine sur un petit twist vraiment sympa pour les amateurs un peu d'horreur, les gens qui aiment les vampires, les gens qui aiment bien les autres types de créatures horrifiques. Je pense que la suite va être intéressante. Pour moi, ça reste un bail et j'aime vraiment beaucoup cette série.
Ok, la transition est tout trouvée justement parce que tu vas nous parler de Justice League Dark.
Oui, alors Justice League Dark, ça c'est ma deuxième lecture de la semaine avec Spider-Man. Donc Spider-Man, je vous invite à lire, j'ai fait un petit Unspoken sur le site. Mais donc l'autre série que j'ai vraiment beaucoup aimée cette semaine, c'est Justice League Dark, donc avec l'équipe de Jeff Lemire au scénario et Michael Ranin au dessin. Michael Ranin, vraiment j'adore. Les dessins sont superbes. Et c'est la suite de cet arc qui avait commencé dans le numéro précédent, où on voyait Steve Trevor qui avait demandé à Constantine d'aller récupérer un artefact magique en Amérique du Sud et de sauver également le Docteur Mist. Donc ils s'étaient retrouvés face à Faust et à la fin ils avaient trouvé un artefact magique, mais c'est quelque chose que Constantine pensait n'existait pas. C'est la carte qui leur permet de trouver les livres de la magie, à savoir tout ce qui explique la magie dans le monde. Et c'est quelque chose de très très puissant. Donc Constantine se retrouve avec ça et il décide en fait de faire comme il l'entend, de pas ramener ça à Steve Trevor, qu'il emmène sa petite équipe dans son petit QG caché, la maison des mystères, The House of Mystery.
Le retour.
Ouais, le retour. Et là, bien sûr, Constantine dans toute sa gloire, quoi, qui roule tout le monde et qui bosse pour sa pomme, quoi. Et on a droit à des dialogues assez savoureux et en fait à l'apparition de créatures magiques qu'on avait déjà vues avant chez DC. Et c'est le retour. Bah ça, c'est dans le petit résumé, donc je peux le dire. C'est le retour des Demon Three. C'est plutôt sympa et on se rend compte que Faust avait un plan. Et c'est passionnant, franchement. C'est en lien avec ce qu'on avait vu dans le Free Comic Book Day, cette fameuse pièce dans laquelle il y avait tous les artefacts chez Argus. Je pense qu'il y a pas mal de mystères qu'on va être vraiment content de découvrir. Non, franchement, c'est une super lecture avec des super dessins. Moi, j'adore, quoi. Un gros bail, quoi.
Continue de se diriger vers Trinity War, donc.
Ouais, peut-être. Ouais, je pense que il va y avoir un lien au final avec ça.
Bon, on peut pas parler d'une Justice League sans parler de l'autre. Donc
voilà,
l'autre Justice League.
L'autre Justice League, là aussi, je pense que vous allez en parler avec Benny, mais un numéro qui m'a un petit peu déçu parce que finalement ce méchant, ce fameux David Graves, j'aime pas trop son design déjà, et je trouve les pouvoirs qu'il a complètement abusés. Alors on se doute bien que ce qui se passe, ça va pas vraiment avoir les conséquences qu'on voit dans le comics, mais bon, enfin. Je trouvais que c'était un petit peu simple, son histoire de vengeance. Pour l'équipe créative, c'est toujours Geoff Johns et Jim Lee, donc au niveau des dessins, c'est très sympa. Mais un petit peu déçu quand même par les facilités du scénario, et puis toujours cette caractérisation un petit peu spéciale de la Justice League, où on se dit qu'après 5 ans, ils auraient quand même fini par se connaître, alors qu'en fait, ils ont l'air de découvrir les uns les autres ce qu'ils font. C'est un peu bizarre, moi, je trouve. Enfin, ça, vous allez en parler, je pense, avec Benny.
Ouais. Ben justement, un point que j'ai abordé avec lui, que je vais te soumettre, tu avais lu 52.
Oui, j'avais lu 52, c'est un truc que j'avais adoré, 52.
T'as pas eu l'impression d'une ressucée, quand même? Je sais pas, le mec qui arrive aux montagnes himalayennes. On nous dit c'est au milieu de l'Asie, mais c'est Namda Parbat, quoi.
Ça ressemble, ouais.
J'ai l'impression qu'il nous refait la même chose qu'il avait fait avec The Question à l'époque, sauf que cette fois-ci, ça marche. Il est sauvé.
Et que c'est plutôt côté bad guy.
Vraiment l'impression qu'il a ressuscité son idée, quoi.
Ouais, c'est un peu dommage. Mais même aussi, je trouve qu'il y avait un petit côté aussi la tour de Babel avec le côté je sais plein de choses sur vous, sur comment vous défaire et tout. Donc c'est pour ça, ça fait vraiment pas quelque chose de nouveau, quoi. Ouais. Mais bon, j'ai confiance quand même pour la suite de l'arc. Je pense que ça va décoller après. Puis vu comme ça se termine. J'ai envie de savoir ce qui va se passer et comment ils vont s'en sortir. Mais bon, ce qui m'a le plus plu dans ce numéro, c'est le backup, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais bon, en même temps, c'est plusieurs pages vraiment très belles.
C'est vraiment un backup maintenant, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas autant de pages, mais il y a quoi, 12 pages au moins, quoi.
Ouais, c'est super.
C'est presque une histoire complète, c'est plus un backup.
Ouais, c'est du Gary Frank. Ça va être vraiment sympa à la fin quand on aura toute cette histoire sur Shazam. Et puis au niveau de l'histoire, ça avance bien. L'apparition d'un personnage que tout le monde attendait, tout le monde attendait le retour. Donc, il arrive bien à écrire, je trouve, les enfants avec des dialogues qui sont vraiment bons, quoi. On, On a peut-être cette sensation que ça va pas très très vite, mais au final, je trouve que ça permet bien de développer les personnages. Bah, ça me plaît beaucoup, quoi, cette série.
Il est bien meilleur dialoguiste que Bendis sur les enfants, quoi.
Bah là, pour ça, ouais, ça c'est clair, ouais.
C'est moins caricatural, en fait.
Ouais, moins caricatural, ouais, tout à fait. Même si, j'en parle dans Spider-Man, je trouve que quand il fait parler Miles Morales, il se débrouille quand même pas trop mal, Bendis. Mais bon.
Ah, mieux que certaines fois, c'est. Je suis d'accord avec toi, oui, effectivement.
Donc voilà, mais donc c'est un gros bail surtout pour le backup et puis bah c'est du Jim Lee et c'est quand même un arc sympathique quoi.
Allez, on continue avec le Ultimates de cette semaine.
Ultimate Comics The Ultimates, donc la 12e issue, c'est la fin de l'arc. C'était un arc qui était quand même relativement long qui voyait justement Reed Richards devenir un peu une sorte de méchant omnipotent capable de détruire presque carrément les États-Unis. Je vais pas en révéler parce que justement c'est vraiment la conclusion, donc il y a un bon petit twist pour expliquer comment ils s'en sortent. C'est très très spécial, donc on se retrouve avec un concept qui est un petit peu proche de ce dont je vous ai parlé avec le coup de Danny la rue dans Teen Titans. C'est quelque chose de très bizarre. Au début je me suis dit oula, c'est complètement taré, et après en fait en revenant sur les issues précédentes je me suis dit ah oui d'accord, non, ça avait été quand même assez bien amené. Donc c'est à la fois what the fuck et en même temps plutôt bien pensé. Donc voilà, j'ai bien aimé. Par contre le gros point noir, je trouve que les dessins de alors donc c'était Hickman et Humphries au scénario, et c'est Luc Ross au dessin, mais il n'y a pas que lui, en fait. Il y a aussi quelques pages de Butch Geese et aussi quelques pages de Ron Garney. Et ben, je trouve que ces dessinateurs, ça c'est un petit peu difficile de passer après Ezad Ribic, et le fait qu'on ait trois dessinateurs pour la même issue, c'est vraiment décevant. J'aurais vraiment aimé que ces 12 issues soient dessinées par le même artiste, quoi, par Ezad Ribic, et là, ça aurait vraiment fait un truc très cohérent et vraiment ultra puissant, quoi. Mais bon, c'est quand même un bail. J'ai bien aimé la fin, et puis ça se termine sur cette ouverture vers le prochain gros crossover de l'univers Ultimate, Divided We Fall. C'est un gros bail malgré
on va
le.
Voir quelques images dans les pages des pubs des comics cette semaine.
Ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est un gros bail malgré le petit bémol sur les dessins qui sont un petit peu en dessous quand même.
On continue avec une nouvelle sortie cette semaine, Hit Girl numéro 1.
Voilà, Mark Millar au scénario, John Romita Jr. Au dessin, et alors avec bien sûr aussi Dean White à la colorisation et Tom Palmer à l'ancrage. Et ça c'est important de le préciser parce que au niveau dessin, ça n'a rien à voir avec AVX. D'ailleurs, c'est comme Kick-Ass 2 aussi, qui était même si les dessins, c'est du Romita Jr., c'est pas le meilleur Romita Jr. qu'on voit, c'est quand même beaucoup plus digeste que ce qu'on voit dans AVX. Et la colorisation il fait pour beaucoup, tout comme l'ancrage. Cette série, donc Hit Girl, ça se passe justement entre Kick-Ass volume 1 et Kick-Ass volume 2. Et ça va s'intéresser à justement Hit Girl après la fin de Kick-Ass, qui se retrouve chez sa mère et avec son beau-père. Et elle doit réintégrer en fait le collège. On voit qu'elle a un petit peu de mal à s'intégrer. Elle a plus de facilité à botter des culs et à tirer sur les gens qu'à subir les railleries des copines de classe. Et ça, c'est assez intéressant de la voir sous cet angle-là. Le pitch aussi, c'est en fait le précédent méchant. Il avait un frère qui est en prison, qui devient. Ce frère devient le chef de la mafia et il décide de s'en prendre à Hit Girl et à Kick-Ass.
Attends, tu prends n'importe quel film d'action des années 80, c'est ce pitch-là, tu sais, quand tu
faisais
un 2 ou un 3.
C'est très simple, le pitch, c'est le frère du mafieux, ça reste très irrévérencieux, ça reste très violent, mais, j'ai quand même trouvé ça vraiment sympa à lire et plutôt dynamique, et le duo Hit Girl Kick-Ass est vraiment chouette, et comme on sait maintenant, ce qui s'est passé dans Kick-Ass 2 et qu'on voit au début de Kick-Ass 2 qu'elle avait vraiment laissé de côté ce rôle de Hit Girl, on a envie de savoir ce qui va se passer à la fin de cette mini-série pour la faire justement complètement changer d'avis sur le rôle des super-héros. Donc pour moi c'est un bail et une bonne lecture pour cette semaine.
Avant-dernière petite review, c'est le Masters of the Universe Digital, je crois.
Voilà, ça va aller vite, c'est un numéro 1. Je l'ai lu parce qu'en fait, je suis assez intéressé par la série Masters of the Universe qui va commencer là en juillet avec Robinson au scénario. Et là, en fait, c'est des petits webisodes qui réintroduisent l'univers des maîtres de l'univers chez DC. Et ce qui est amusant, c'est que c'est Geoff Johns au scénario et Howard Potter au dessin. Et en fait, Geoff Johns, quand il avait 8 ans, il a eu l'idée d'un personnage des maîtres de l'univers qu'il avait dessiné. Beaucoup plus tard, en fait, on est venu le voir, on lui a dit « bah si tu veux ton perso, on peut en faire une figurine ». Et donc, ça a été une figurine qui est sortie il y a quelques mois. Et là, et, en fait, il a donné vie à sa figurine dans un comics. Et donc, bon, c'est l'histoire d'un chevalier qui était le grand chevalier du précédent roi, du roi des maîtres de l'univers, avant que ce soit Iman.
Ouais, le roi des Terniens.
Voilà, le roi des Terniens. Et donc, en fait...
Oh, une référence geek, quand même. Je sais pas où je l'ai sorti, celle-ci.
Ah bah, j'ai eu des figurines quand j'étais petit, mais c'est vrai que l'univers des maîtres de l'univers, j'ai pas mal oublié.
Non, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi ce nom est ressorti d'un coup, quoi. Je sais pas où il était enfoui dans ma mémoire, mais il est ressorti tout seul.
Ouais, il ressort. Et donc, en fait, ça se passe bien avant que Musclor devienne le maître de l'univers. Et ça explique un peu qui était ce chevalier. Et il se trouve que... Alors là, j'ai lu sur le net qu'en fait, Musclor, après, va envoyer des gens dans le temps pour aller récupérer ce personnage et qu'ils viennent avec lui pour devenir un peu le nouveau formateur de ses guerriers. Donc
le nouveau maître d'armes.
Nouveau maître d'armes, voilà, c'est ça.
Oh, la classe.
Alors après, ça se lit très vite, c'est $1, c'est du Howard Potter de bonne qualité, les dessins sont sympas, mais il y a vraiment pas assez de pages pour vraiment se faire une idée sur là où le scénario va aller. Bon, bah, j'attends de voir la suite quand même. Pour moi, c'est juste un petit check-it, voilà, quoi.
Geoff Johns se fait plaisir, quoi. Être chef creative officer chez DC, ça a ses avantages, apparemment.
Et ouais, exactement.
Alors, dernier review de la semaine pour toi, c'est le Superman.
Alors ouais, Superman numéro 10, avec Dan Jurgens au scénario et Jesús Merino au dessin. Bah, c'est la fin du mini-arc qui avait commencé dans le numéro précédent, avec justement cette femme qui s'appelle Anguish, qui en fait ne ressent rien en fait, elle ne ressent pas la douleur, elle ne ressent pas les émotions. Elle avait cambriolé une banque, elle avait récupéré un artefact à l'intérieur, enfin un objet. Et Superman était venu pour essayer de lui botter le cul, mais c'est lui qui se fait botter le cul en fait. Et donc on en apprend plus sur ce personnage. Bon, ça c'est pas la partie que j'ai trouvée intéressante, surtout que bon ça tombe un petit peu à plat. Ce qui était intéressant, c'était plus qu'en parallèle, en fait, il y avait un journaliste, un blogueur qui avait découvert en fait l'identité de Superman et il avait vendu ça, cette info à la télévision, et ça s'est passé à la télé, et Superman voit ça et en fait c'est pas du tout la bonne personne qu'ils ont considéré comme étant Superman, et du coup cette personne se retrouve en danger tout comme sa famille. Et donc voilà, ça j'ai trouvé ça un petit peu plus sympa, mais bon, c'est vraiment très mineur, c'est pas du grand Superman, quoi. Et pour l'instant, voilà.
Superman n'est pas grand depuis le relaunch. Ouais, depuis même avant.
C'est vraiment dommage. Et j'espère que Lobdell va faire un truc sympa à partir du numéro 0 et avec Rocafort. Peut-être que ça va un peu redonner un petit peu de dynamisme à cette série, mais là c'est quand même vraiment très moyen, quoi. Donc pour moi c'est un pass limite check-it, quoi, mais c'est vraiment pas top, quoi. Attendez la sortie de la VF, quoi, dans le magazine chez Urban, quoi. Achetez pas ça en VO, quoi. Voilà.
Ok. Donc on l'aura compris, hein, ton coup de cœur de la semaine c'est Spider-Man, dont tu nous as fait le Spoken sur le site cette semaine, qui est sorti hier du coup.
Ouais.
Et ton second coup de cœur de la semaine c'est le Justice League Dark.
Justice League Dark, ouais, vraiment une. Depuis qu'à Jeff Lemire, c'est devenu beaucoup plus ambitieux et les dessins sont toujours aussi bons, quoi, de Michael Ranin. Donc voilà, j'adore le scénar, donc à suivre.
Ok, bien je te remercie Kinghead d'avoir pu te libérer pour enregistrer ce petit bout, histoire de pouvoir donner ton avis sur la semaine, vu que tu ne pouvais pas ce soir enregistrer au moment prévu. J'aurais juste une petite question, c'est la fête du vin ce week-end à Bordeaux, étant de Bordeaux, vas-tu aller faire un petit tour à la fête du vin?
Eh bien, vois-tu, si j'ai fait décaler cet enregistrement, c'est parce que justement, j'ai bien l'intention de profiter de la fête du vin et j'ai déjà commencé hier soir. Et
oh, le soulard.
J'y suis allé ce midi, j'y vais ce soir et j'y vais ce week-end. Donc tout ça, c'est juste pour le feu d'artifice, hein. C'est pas du tout pour boire. Hein. Non. Mais mais c'est vraiment une fête assez sympa qui permet de tester pas mal de vins, même de très bons millésimes. Et on peut aimer les comics et aussi aimer le vin. Et quand on est à Bordeaux en plus, ça permet d'en profiter. Après, il y a de l'animation, parfois il y a des gens qui se jettent dans la Garonne.
Mais justement, fais attention à ne pas y tomber, puisqu'en ce moment, apparemment, ça a l'air assez mortel.
Oui, non, c'est vrai que c'est un peu glauque. D'ailleurs, hier soir, il y a quelqu'un qui est tombé dans l'eau, heureusement, qui a été repêché, in extremis. Mais, donc il y a quand même beaucoup de flics, il y a des jet skis sur la Garonne qui surveillent, c'est carrément alerte à Malibu presque, mais Donc voilà, bah merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de tous ces beaux comics.
Mais je t'en prie, hein, c'est un plaisir.
Et puis, bah, moi, je vais aller boire un coup. Et puis...
Écoute, bois-en un, notre santé. Et surtout, petit message de prévention. Bon, déjà avec modération, bien sûr.
Attends, la loi E20, ça marche même sur les podcasts. Hein.
Mais surtout, ne tombe pas endormi sur ta chaise de PC Skype allumée.
Non, non, mais ça.
Voilà, un petit clin d'œil à ceux qui comprendront.
Et c'est le petit clin d'œil aussi, c'est que bah, je lui souhaite un joyeux anniversaire. C'était aujourd'hui, le jour de l'enregistrement. Donc, joyeux anniversaire Jean-Lô. Voilà.
Bah, joyeux anniversaire à lui.
Bon, bah, bon enregistrement et bah, à bientôt.
Et bah, à la semaine prochaine, Kinghead.
Allez, salut Steve. Ciao.
Petite rectification, Kinghead disait à la semaine prochaine à la fin, et oui, et moi aussi, et on avait complètement oublié, c'est le Comic-Con France, donc il sera au Comic-Con à Paris, ne pourra pas enregistrer le Comics Weekly.
Oh, eh bien ça fait une très belle transition avec ce que je te disais juste avant qu'on retrouve le coin de Kinghead. Vous pourrez retrouver Kinghead au Comic-Con Paris, à mon avis, ils vont faire un chiffre qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Donc Kinghead qui sera là vraisemblablement les jeudis et vendredis, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc va falloir prendre ses journées. Si vous voulez voir Kinghead en personne.
Ok, ça allez.
Sympa.
On continue les reviews de la semaine avec la sortie du Hulk numéro 10, Incredible Hulk, écrit par Jason Aaron avec Tom Raney au dessin. La troisième partie de l'arc Stay Angry. Hulk se retrouve dans l'espace. C'est-à-dire qu'après se retrouver au Nouveau-Mexique, face à Pitbull, quand il était quand même un adversaire complètement fou, se retrouver au fond de l'Atlantide. Il se retrouve maintenant dans l'espace. Quel tour lui a encore joué Banner? Eh bien justement, on va essayer de comprendre comme lui, on découvre petit à petit. Et c'est un épisode de folie. Il se retrouve à bord d'une station spatiale russe, mais genre la station Black Ops, hein, que personne ne connaissait. Apparemment Banner devait la connaître puisqu'il l'a mis là. Sur laquelle il y a un espèce de programme de super soldats russes hyper secret qui a pas forcément bien tourné puisqu'après la chute du mur... Là, on a abandonné un petit peu toutes ces opérations. Mais il y a aussi des robots grizzly, des grizzly en tout cas qui ont des implants cybernétiques et qui sont super balèzes. C'est vraiment un épisode de malade. Ça part dans tous les sens. C'est vraiment du fun en barre, quoi.
D'accord, donc au fait, cette série est très bonne.
Mais oui, c'est, en fait, il faut le prendre au premier degré, certes, mais voilà, faut le prendre comme ça vient, quoi. C'est juste un gros truc d'action, et on essaye de comprendre aussi quel est le plan de Banner derrière tout ça, parce qu'il y a un plan, quoi. Banner essaye de lui jouer un tour.
Donc il y a quand même un scénario, quoi. C'est pas...
Oui, il y a un scénario. Et puis alors, la dernière page.
Oh, je viens de voir, je viens de tomber dessus.
La dernière page, quand même, promet du bon encore pour le prochain épisode, puisque ouais. Hulk va se retrouver face à un grand ennemi de Spider-Man, on n'en dira pas plus. Mais ça va être sportif.
C'est pas Docteur Octopus.
Non, voilà.
C'est ce qui est logique, puisque oui, théoriquement, Docteur Octopus, on le reverra plus avant un petit moment. Mais
donc,
bon.
C'est un bail, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un check-it, quoi. C'est okay. Un bon check-it. Mm-hmm. On passe maintenant à une nouvelle sortie, Hit Girl.
Oui, alors Hit Girl revient, donc par Mark Millar et John Romita Jr. John Romita Jr., on va le dire tout de suite, qui est en meilleure forme que sur AVX.
Eh ben, Kinghead a eu la même réflexion.
Ouais. Bah carrément plus en meilleure forme. Alors est-ce que ça vient de l'ancrage? Je ne sais pas. Je crois que c'est encore. Je me demande si c'est pas.
C'est Tom Palmer l'ancrage.
C'est Tom Palmer. Bah alors est-ce que c'était pas lui déjà sur AVX qui l'ancrait? Je ne sais plus.
Je ne sais plus. Mais ça vient peut-être aussi de la colo. Hein.
Ouais ouais. Toujours est-il que colonie de vacances il n'y aura pas pour Hit Girl. donc l'histoire bah ça se situe. Alors c'est ça un petit peu le ce qui est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Ça se situe entre le premier et le second volume de Kick-Ass. Donc il y a plein de choses que l'on sait déjà. On retrouve un Kick-Ass qui est plutôt tranquille dans sa situation actuelle puisque autant il lui arrive pas mal de merde dans le deuxième volume, autant là bon bah il vit encore chez lui, quoi. Voilà, je viens de spoiler un petit peu le second volume, mais c'est pas grave. De toute façon, ça fait déjà quelques mois que c'est terminé.
Ouais, et puis le premier tome est déjà sorti en France au mois de juin. Donc,
Ouais, et à chaque fois, d'ailleurs, ça me saoule. Ils le sortent à chaque fois en deux tomes, forcément. Mais bon.
Pour le ressortir en un tome, ensuite.
Peut-être, ouais. Je sais pas.
Comme ils ont fait avec le premier, à mon avis.
Ah, ils l'ont fait avec le premier?
Ils avaient ressorti une édition avec tous les épisodes d'un coup.
D'accord, ok. En même temps, ça s'était très vite épuisé, ce sera peut-être pas le cas d'ailleurs pour le second volume, et ce sera peut-être pas le cas pour Hit Girl, puisque moi je trouve ça plutôt sympathique, pour reprendre l'expression consacrée, mais toujours est-il que Millar ne fait plus vraiment le buzz actuellement, j'ai l'impression que c'est un petit peu retombé tout ça, Et c'est pas plus mal, parce que bah, quand il est un peu moins dans la provoque et quand il est un petit peu moins dans le buzz, justement, et bah, il propose des histoires un peu plus. Bah, je sais pas, moi j'aime bien, quoi. Je suis rentré dedans, j'ai apprécié beaucoup plus le deuxième volume que le premier, et puis là, ce Hit Girl est, ma foi, plutôt réussi.
Mais faut dire que déjà il sort beaucoup de séries en ce moment, hein, entre Secret Service, Super Crooks, Hit Girl, enfin il y a beaucoup de produits Millar qui sortent, et qui fassent pas le buzz, je suis pas sûr, hein. Rappelle-toi ce que nous avait annoncé Corwin la semaine dernière, hein, c'est arrivé cette semaine. Il y a eu un titre de docteur en
ouais,
lettres honoraires.
Tout le monde s'en fout.
Bah, ça a été repris sur tous les sites de comics, hein. Ça fait ouais. Le buzz. Hein. Et finalement, c'est là qu'il faut aller chercher le public.
Bah,
hein,
ça fait le buzz parce que justement, c'est un titre que beaucoup trouvent, à mon avis, qu'il ne mérite pas. Mais c'est pas non plus une provocation.
Non,
comme
c'est
il
pas
a
une provocation, mais ça met le spotlight sur lui. Donc les gens vont se dire, attends, il a eu un doctorat en lettres comme ça, même si c'est un titre honorifique. C'est peut-être pas pour rien, donc on va peut-être aller regarder un ou deux comics à lui pour voir s'il le mérite son titre.
Oh bah,
et c'est toujours un ou deux comics de vendus.
À mon avis, ils vont être surpris.
Hein,
parce que...
c'est toujours des gens qui vont acheter juste pour savoir s'il le mérite ou pas son titre. Publicité gratuite, hein, publicité à la Millar.
À mon avis, c'est surtout voilà, les gens... Enfin, je veux dire, Millar, si ça tombe, connaît quelqu'un qui a pu, lui, par une manière un peu détournée...
Mais Corwin nous avait expliqué, hein, je sais plus si c'était Corwin ou quelqu'un du chat, enfin, on nous avait expliqué la semaine dernière que, justement, c'est parce qu'il donne beaucoup de conférences dans cette université qu'ils ont décerné ce titre honorifique.
D'accord. Oui, ouais. Effectivement, je me rappelle maintenant.
Donc, du coup, Hit Girl, un bail.
Oui, oui, un bail, bon, c'est pas le bail ultime non plus de la semaine, mais c'est quand même un bail, ouais.
On passe au Batman The Dark Knight numéro 10. Alors, c'est une série que je ne suivais pas, parce qu'elle m'ennuyait, tout simplement. C'était franchement pas très bon.
Mais elle change souvent de scénariste, j'ai l'impression.
Ouais, voilà, j'avais arrêté de la suivre, et puis bah là, honnêtement, je me suis fait avoir par la cover, parce que la cover est dégueulasse.
Ouais.
Elle est vraiment super crade, on a un Batman
mais
avec
on
les
va
lèvres
pas dire ce
suturées.
Que c'est un motus et bouche cousue.
Ouais, on a un Batman avec les lèvres suturées, enfin une cover super graphique qui ouais. Va continuer, à mon avis, de faire abonder des plaintes vers chez DC, puisqu'on rappelez-vous à l'époque du relaunch, on avait la fin de ce Detective Comics 1 avec, je peux le dire maintenant, il n'y a plus de spoiler du tout, hein, même c'est sorti en français, donc pour les gens qui suivent que la VF et qui écouteraient le Comics Weekly, vous êtes au courant aussi. Le Joker avait le visage arraché, on voyait le visage du Joker découpé, accroché sur un mur en dernière page, et tout le monde avait dit c'est hyper violent le relaunch DC, c'est vraiment de la violence gratuite, c'est plus fait pour les enfants.
Ah, c'est vrai, déjà, que ça avait choqué. Moi franchement, c'était la fin sur les 52 premiers numéros qui m'avait le plus marqué quand même.
C'était marquant, c'était obligatoire, c'était fait pour, c'était fait pour faire un électrochoc. Mmh. Bon, je rappelle quand même que sur les comics, il y a écrit Rated T, donc pour teen, donc déjà, teen, c'est assez vague, mais c'est-à-dire qu'un enfant de 6 ans ne doit pas avoir ce comic entre les mains. Teen, c'est quand même ado.
C'est pas tétine. Ça y est.
Donc, voilà, si votre enfant a ce comic dans les mains et qu'il a pas l'âge requis, bah, à vous de sévir, quoi. C'est, enfin, pour moi, ça ne viendrait pas.
Comment tu dis?
Non, mais
bah,
ça ne viendrait pas à l'idée.
De coudre les mains ensemble,
mais,
je sais pas, les doigts. Les doigts, comme ça, il pourra plus acheter le comics, il pourra plus en lire.
Mais non, mais vous lui cousez les yeux.
Ah oui, oui, c'est encore mieux.
Comme ça, c'est plus simple. Non, non, mais enfin, un enfant de 6 ou 8 ans ou même 10 ans n'a pas à lire ce genre de choses. Il y a des séries pour tous. On a de choix. Enfin, la production comics est assez grande pour pouvoir offrir un maximum de diversité. Il y a des produits qui sont réservés pour adultes. Il y a des produits qui sont réservés pour...
En même temps, maintenant, on attaque toujours les comics, mais quand on voit la violence graphique des mangas et quand on sait que de toute façon, même des gamins de 10 ans lisent des séries manga extrêmement violentes,
mais
c'est beaucoup plus accepté parce que voilà, le manga est rentré un petit peu dans les mœurs.
Déjà, c'est noir et blanc, donc c'est noir et blanc, donc ça paraît moins graphique.
Ouais. Non, mais aux États-Unis, par contre, je sais pas. Par contre, aux États-Unis, de toute façon,
la plainte vient des États-Unis. J'ai pas entendu ce genre de plainte en France, mais en même temps, c'est comme les parents qui gueulent que les enfants jouent à GTA. Mais GTA est interdit aux moins de 18 ans. Si les enfants qui ont moins de 18 ans jouent à GTA, c'est la responsabilité des parents, je suis désolé, quoi.
C'est comme
les parents
qui
ne
enferment
savent pas
d'autres personnes dans des cachots quand ils se ramènent avec des images de manga.
Bien sûr. Non, mais voilà. Si les parents ne savent pas à quel jeu jouent leurs enfants, faut revoir l'éducation au bout d'un moment, quoi. Je me dis que là, il y a peut-être un souci. Donc bon, moi ça me fait un peu rigoler. Bon, bref, la parenthèse va être fermée. Je suis allé voir parce que cette cover était vraiment ignoble et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Comment ça se fait que Batman a la bouche suturée comme ça? C'est l'arrivée de Greg Hurwitz au scénario, Greg Hardy.
Alors, est-ce que ça a un rapport? Attends, justement, j'ai envie de te poser la question depuis tout à l'heure. Est-ce que ça a un rapport avec Surtur, le grand ennemi, là?
Pas du tout.
D'accord.
Du tout. On est bien loin de ça. On est vraiment dans le mythe Batman traditionnel, en fait. C'est un ennemi de Batman très classique que je ne crois pas avoir vu depuis. En même temps, j'ai pas lu tout Batman hein, depuis le relaunch, donc ça se trouve il est peut-être déjà passé dans certaines pages. Je vais pas révéler qui c'est justement. Ça va être, ce sera l'intérêt de découvrir aussi. Finalement, bon, cette image n'apparaît pas. On n'a pas de Batman avec la lèvre cousue dans le comic, mais les lèvres cousues apparaissent bien. Et déjà, la première page est vraiment crade.
D'accord.
Vraiment, vraiment crade. Ça va être vraiment une enquête qui va mettre à mal Batman. Il va essayer de changer sa méthode un petit peu, puisqu'on lui a reproché d'être trop violent, trop dur, pas assez empathique. Il va essayer de changer sa méthode. C'est pas forcément ce qu'il va réussir à faire de mieux.
Oui, j'ai l'impression que c'est très graphique, de toute façon. Donc, mais,
C'est-à-dire que ça va lui apporter des choses d'un côté, dans son enquête, mais finalement, ça va se ressentir sur ses relations personnelles aussi, ce problème-là. Donc, il se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises. Et puis, cette menace va s'en prendre au commissaire Gordon, qui va se retrouver dans une très 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 mauvaise posture à la fin. J'ai été très 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 surpris par cet épisode. Donc, comme je disais, c'est Greg Hurwitz, hein, c'est celui qui a écrit Penguin, Pain and Prejudice, la mini-série qui sortit au début du relaunch, hein, qui s'intéressait...
Ah oui, Pingouin, oui, bien sûr, oui, le Pingouin dans Batman.
Oui.
Oh là là, j'imaginais un Pingouin, enfin, tu vois, je voyais pas du tout qu'est-ce que c'était cette série, quoi. D'accord, bien sûr.
Qui s'intéressait donc aux origines du Pingouin, qui était quand même assez, assez glauque et assez violente, et ben là, on a du Greg Hurwitz. C'est glauque, c'est assez graphique. Le dessin de David Finch, fait son effet, puisque c'est un dessin très propre, et justement, ça rend les choses encore plus crates, quoi.
Donc,
très bonne surprise, j'ai bien aimé. Je vais aller voir la suite parce que j'ai été vraiment intrigué et j'ai envie de savoir ce qui arrive au commissaire Gordon. Donc un bail.
Ok, et donc oui, David Finch toujours très bon alors.
Ah ouais non, très bon. Là-dessus, très bon, il n'y a pas de souci. C'est vraiment très 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 joli.
Ok.
Mais dans l'ensemble, j'ai quand même l'impression que on a généralement des très très beaux dessins un peu partout, quoi. Ça
ouais,
devient même difficile
ouais.
Maintenant de dire que quelque chose. C'est
non,
quelque chose de moche
chez DC, quoi, plus que chez Marvel, j'ai l'impression, parce que
on a du mal à trouver des choses de moche, quoi. Enfin, ça devient difficile, quoi, de plus en plus.
John
Romita
Junior,
c'est beau. J'ai l'impression qu'on se répète, mais pourtant c'est la vérité, c'est beau. On va pas dire
John
que c'est moche.
John Romita Junior sur AVX, quand même, c'était très moche.
Ça, c'était affreux, quoi. C'est même pas digne d'être un drague professionnel.
Ouais.
Donc d'un Batman, on va passer à une autre série Batman, la série Batman Incorporated numéro 2, avec Grant Morrison au scénario et Chris Burnham au dessin. Chris Burnham, un clone de Frank Whiteley, en presque meilleur, moi je dirais.
Moi je préfère. Je trouve que c'est un peu moins torturé, et puis il est surtout plus rapide, hein, comme on le disait en antenne à dessiner. Donc les
délais
sont
respectés, quelqu'un de meilleur, quoi.
Et tant mieux.
Capable de tenir un mensuel... Voilà, et en plus, il y a du détail, quoi. Il y a des pages où il y a du background partout. Enfin, c'est pas des cases vides avec juste des gros plans, quoi. Enfin, je dis pas que c'est ce que fait Quietly, hein, du tout, mais voilà, il est rapide, mais en plus, il arrive à détailler vraiment ses scènes.
Ouais. Généralement, c'est vraiment bien foutu. Bon, alors là, l'épisode, si je peux me permettre, cher confrère.
Mais je t'en prie, vas-y, fais le résumé, parce que moi, ça me repose.
Bah non, mais c'est surtout que c'est très vite, très très rapide à faire. C'est l'histoire, grosso modo. Alors, un peu surprenant d'ailleurs, c'est l'histoire de Talia, quoi. Voilà, la jeunesse de Talia. On revoit aussi, par exemple, sa rencontre avec Bruce Wayne. Un petit peu, en fait, de ses débuts, enfin même de sa naissance, on va dire, jusqu'au moment où elle est arrivée à la tête du Léviathan. Et au fait, elle tend un petit peu un piège, une embuscade à son père, puisqu'on se demandait où était passé Ra's al Ghul.
Bien sûr, ouais.
Eh bien, on a la réponse. Du coup, bon bah, franchement, un épisode très calme, très tranquille. Pour du Grant Morrison, c'est surprenant ce deuxième épisode, comme le premier d'ailleurs, puisque c'est vraiment très reader friendly, hein, honnêtement.
Alors, c'est très reader friendly, mais je pense que c'est pour attirer les gens à la lecture. Pour les gens qui n'auraient pas suivi Batman Inc., qui n'auraient pas lu Leviathan Strikes, ça nous permet de replacer pourquoi Talia, qui est à la tête du Leviathan, hein, c'est pas un spoil pour personne, va en vouloir autant à Batman et va chercher autant à le détruire. Donc il nous replace les trucs, il nous montre Batman, etc. dans le premier épisode, nous fait comprendre un petit peu les enjeux. Dans le deuxième, il nous montre les enjeux du côté de l'ennemi, pourquoi il y a cette guerre entre les deux, et puis à partir de là, on va partir, quoi. On va aller vers ce conflit. Moi je trouve par contre que Chris Burnham a vraiment raté Ra's al Ghul.
Ouais.
Je trouve que sur les pages, il y a quelques pages où
c'est plus Gargamel, mais...
Ouais, puis je sais pas, il a des sourcils très proéminents.
Ouais.
Enfin, c'est même pas des sourcils, ce sont les os, hein, au-dessus de
Ouais. Les
au-dessus des
pommettes, ouais.
qui sont en dessous des sourcils,
Ouais, ouais.
qui sont très proéminents. Bon, la narration est bizarre parce qu'on passe d'une période de temps à une autre plus ancienne, à une autre plus récente. Il n'y a pas d'indication de temps. C'est à vous
Ouais,
de faire.
comme d'habitude avec Grant Morrison, c'est vrai que
C'est à vous de
c'est un
faire
petit
le
peu
lien, mais.
déstabilisant, mais en même temps, là c'est vraiment chronologique, donc bon, on s'en sort quoi.
Oui, et puis bon, voilà, on a connu beaucoup plus torturé sur du Grant Morrison.
Ouais.
Malgré tout, moi je reste un petit peu déçu de cet épisode, honnêtement.
Moi aussi, puisqu'on est parti sur une intrigue et puis finalement on a complètement autre chose. Là, c'est pas
Ben,
du tout la
c'est
même
surtout que
intrigue.
j'ai l'impression d'avoir rien appris, moi.
Ouais, totalement.
Ben, la seule chose que j'ai appris, c'est ce que j'ai lu, Next Issue, La Résurrection de Matches Malone.
Ouais. Qui est donc alors rappelle-moi,
Alors,
qui
Matches Malone, c'est une identité que Bruce Wayne prenait pour aller s'infiltrer dans
Oui.
les milieux underground où il y a les ennemis pour en apprendre un peu plus, quoi, pour
Exact,
faire
exact.
l'informateur, quoi.
Exact,
Et
exact.
qui était
Donc
mort justement dans un épisode, on avait teasé ça il y a de ça maintenant, oh, je sais plus, peut-être 5 ou 10 ans, c'était la mort de Matches Malone.
d'ailleurs, c'était peut-être Grant Morrison qui avait dessiné ça dans un backup. Si je dis pas de bêtises, dans un Batman Black and White, je pense.
Ah non, c'était un épisode de Batman, je me rappelle que c'était marqué sur la
D'accord.
cover, Death of Matches Malone.
D'accord. Il avait des moustaches.
Ouais, des petites moustaches toutes
Il y a des
pétantes,
moustaches! Il y avait des
ouais.
lunettes! Qu'est-ce qu'il y
Et
avait?
oui, et des lunettes, effectivement.
Ça me rappelle qui est-ce. D'accord. Donc, ok. Sur cette référence toute pourrie, on va passer à la suite.
Bah pour moi,
Avec
c'est un
un,
check-it.
petit bail. Petit bail parce que c'est pas mauvais non plus, j'ai bien aimé, mais on n'apprend pas grand-chose.
Oui, voilà, bah c'est pour ça que pour moi, ce n'est qu'un check-it. Mais c'est pas mauvais du tout, hein, comme tu l'as dit. Ça reste très sympa, ça permet de comprendre un peu mieux pour ceux qui auraient raté des épisodes. On passe à Resident Alien, on va faire un petit tour du côté de l'Indé avec donc une sortie Dark Horse. C'est le numéro 2 d'une mini-série en 3. Peter Hogan est au scénario, Steve Parkhouse au dessin. La suite de ces aventures de cet alien qui s'est crashé sur Terre, qui essaye de s'intégrer à la société en attendant que ses amis, enfin en tout cas les gens de sa planète viennent le chercher.
Voilà, qui essaye de ne pas se faire désintégrer, justement.
Ouais, qui essaye de se planquer du FBI, de la CIA, de toutes ces agences gouvernementales qui essayent de lui mettre la main dessus, et qui se retrouve à être le docteur d'une petite ville qui vient de perdre le sien après un meurtre.
Ça me rappelle un petit peu la situation de Donald Blake. Ce côté, tu sais, un petit peu le mec quand même supérieur qui a un petit job, quoi, dans une petite ville comme ça de médecin.
Ouais, ben voilà, lui, il se planquait en fait, et on est venu le chercher en disant, ben voilà, t'es docteur, on a besoin de quelqu'un. Alors bon, pour ne pas, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi la série, hein, dans les pages de l'épisode, on le voit tout le temps avec sa tête d'alien, mais les gens, il a une espèce de pouvoir télépathique qui suggère aux gens qu'ils le voient d'une façon humaine tout à fait normale. Nous, on le voit ben, en alien parce que c'est plus facile à repérer pour nous, lecteurs, mais les gens le voient comme un humain. Ils ne voient pas que c'est un alien. Donc, ça peut paraître bizarre quand on le feuillette, on voit un alien discuter avec des flics, etc. On comprend pas trop, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il se cache si tout le monde le voit? Non, non, c'est juste qu'il se fait passer pour un humain. Cependant, son assistante a de plus en plus de doutes. Elle voit des choses bizarres, quand elle le voit flou, parce que son pouvoir ne marche pas sur tout le monde. Il y a à peu près une personne sur 1 million sur qui ça ne marche pas. On en saura plus au long de l'épisode, hein. Et puis il va y avoir d'autres meurtres. Et finalement, lui, il va continuer sa petite enquête, parce que ça lui plaît, finalement, d'enquêter comme ça, de comprendre ce qui se passe. C'est vraiment bien écrit, c'est super agréable. J'avais adoré le premier numéro, j'adore aussi ce deuxième. Pour moi, c'est la lecture de la semaine, c'est celle que j'ai préférée. Il y a un rythme assez calme, il y a un petit côté enquête, il y a un petit côté série de flics, un petit côté série médicale, et puis le petit côté science-fiction quand même avec cette série sur un alien, hein, finalement. C'est vraiment très sympa. Apparemment, c'est le premier arc, donc il y a forte chance qu'il y ait de nouvelles mini-séries avec ce personnage.
D'accord.
Et bah j'espère que ça va continuer très longtemps et avec cette qualité-là parce que c'est vraiment, vraiment très, très bon.
D'accord, c'est ton coup de cœur de la semaine?
Ça, c'est mon coup de cœur de la semaine, ouais. C'est vraiment, j'adore cette série. Je continue avec la sortie d'un nouveau titre assez attendu chez Boom Studios, qui aurait pu être mon coup de cœur de la semaine. Hein. C'était vraiment kiff-kiff entre les deux, entre Resident Alien et celui-ci. C'est donc Hypernaturals de Dan Abnett et Andy Lanning. Au dessin, nous retrouvons Brad Walker pour les 6 premières pages et Andrés Guinaldo pour la suite,
Ouais.
accompagné de Mark Irwin.
D'accord.
Je vais essayer de résumer le plus simplement du monde en une phrase. Dan Abnett, Andy Lanning, on connaît, c'est des fans de cosmique, ils ont écrit l'univers cosmique pendant des années chez Marvel avec une qualité énorme.
Ouais.
Enfin, je suis là pour le confirmer, c'était vraiment génial ce qu'ils ont fait. Je pense que tu le sais qu'ils ont une carrière chez DC avant d'être chez Marvel.
Ouais.
Ils ont notamment beaucoup prédestiné à la Légion.
Oui, tout à fait. Bah, on reste dans le même domaine.
On reste dans le même domaine, alors.
Les maîtres S-cosmiques.
Hypernaturals, c'est dans le futur, c'est du cosmique, ça se passe dans l'espace. Eh bien, c'est tout simplement le croisement entre la Légion
et Star Trek.
Non, ça aurait pu, hein, mais il y a eu déjà une mini-série.
Il y a déjà eu une mini-série, mais en plus, ils étaient pas dessus, si.
Non. Non, du tout, du tout. La Légion et Irredeemable.
Ah oui, d'accord. Bah, ça tombe bien, parce que vu que Irredeemable s'arrête.
Alors, moi, j'aime vraiment penser à Irredeemable en termes de narration. C'est-à-dire qu'on est plongé au milieu de ce truc et on comprend pas tout dès le départ. Comme Irredeemable quand on
est épisode. Ce qui serait énorme, c'est qu'ils aient fait un truc à la Prometheus où tu te rends compte que Hypernaturals, c'est un lien avec le peuple que tu vois dans Irredeemable. Tu vois ce que je veux dire, par exemple?
Non, c'est totalement impossible. Parce que là, ça se passe vraiment dans le futur. Alors, on est dans des années vraiment très lointaines. On a une première page qui nous explique un petit peu. L'univers est quasiment géré par un truc qui s'appelle Q-Data, qui est une sorte d'internet intelligent.
Ouais.
Et tout passe par ça. C'est une espèce de dieu quasiment.
Oui,
les gens,
une sorte de browser.
Oui, voilà, mais les gens peuvent pas s'en passer, quoi. C'est-à-dire que ils sont toujours connectés avec ce Q-Data. Ils vous servent de réveil matin. Mais c'est vraiment ça. Et c'en est même drôle puisque certains, un ennemi, je vais expliquer pourquoi, a cherché à détruire ce Q-Data et en disant qu'il voulait simplement détruire Dieu, cette espèce de faux dieu. Et tu vois un peu plus tard dans l'histoire des personnages qui au lieu de dire Oh my God disent Oh my Q-Data.
Ah d'accord, c'est énorme.
C'est voilà, il y a vraiment cette relation. Enfin Oh my Quant, mais parce que Quant Q c'est
oui,
Quant.
Oui bien sûr. Quant.
Alors l'histoire c'est qu'on a une équipe de super héros, enfin des hyper héros puisqu'ils ont des hyper pouvoirs. Enfin c'est vraiment pour pas dire super quoi, c'est pour se démarquer j'ai l'impression, mais une équipe qui existe depuis 100 ans, tous les 100 ans on change d'âge, là on arrive dans un nouvel âge, ça fait 100 ans que cette équipe est créée, et cette équipe a un roster fixe pour 5 années, un peu comme une espèce d'élection de mandat présidentiel hein,
ouais.
En quelque sorte, qui sont les héros de la galaxie, et tous les 5 ans ils changent.
Ouais.
Là, on arrive au 100e anniversaire de la création de cette équipe, donc on a l'équipe du centenaire qui arrive, c'est Hypernaturals justement. Il y a tout un espèce de casting pour savoir qui va être dans l'équipe, on fait des pubs, enfin c'est une espèce de télé-réalité à moitié, un petit peu ce qu'on a dans American God Power, sauf qu'on ne voit pas du tout hein, ce choix de personnage.
Ouais.
Quand l'histoire démarre, on a un flashback sur l'ancienne équipe qui vient de terminer sa carrière, et on apprend que l'équipe actuelle, la toute nouvelle, leur première mission, leur premier jour, cette équipe du centenaire que tout le monde avait les yeux rivés dessus. Eh bien, lors d'un transfert pour aller sur une planète qui n'a plus de communication, elles sont vraiment dans une zone noire, on ne comprend pas ce qui se passe, ce qui est totalement impossible avec le Q-Data, eh bien, disparaissent.
D'accord.
Les anciens Hypernaturals ont pas tous des vies... Enfin, certains, il y en a une qui est restée un petit peu directrice marketing et relations publiques de cette branche, un autre qui est parti à la retraite, un autre qui est devenu une espèce de limite de clodo. Eh bien, ces personnages-là vont essayer de comprendre parce que c'est quand même quelque chose de très très grave, c'est très important. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel, les gens mettent très longtemps à le lire, il y a vraiment des bulles partout, c'est un univers très riche, c'est pour ça que je dis que ça ressemble vachement à Irredeemable, parce qu'on comprend qu'il y a un ennemi qui revient un petit peu comme Modéus hein, dans Irredeemable. On a ce casting de personnages que l'on ne connaît pas, qui sont un petit peu plongés au milieu de l'histoire, dans une espèce de grosse crise,
ouais.
Et on ne comprend pas tout. Et puis c'est la Légion parce que c'est dans l'espace avec des gens qui sont dans une équipe, différents rosters. Voilà, non, c'est vraiment très bon. Ça aurait pu être mon coup de cœur de la semaine. J'ai préféré Resident Alien parce que j'aime beaucoup cette ambiance très calme, très posée. Puis j'avais adoré le premier, le deuxième est très bon. Mais Hypernaturals, un très gros bail, vraiment une très très bonne lecture.
J'ai l'impression que c'est ample à lire aussi, que ça
prend. Ah oui. C'est 35 pages là, mais enfin c'est une trentaine de pages pardon. Mais ça y va quoi, il y a de quoi lire. J'ai mis à peu près une vingtaine de minutes à le lire.
D'accord, ok.
Ah oui, il y a beaucoup de textes, et puis on essaie de comprendre, on essaie de bien regarder, de faire attention aux détails. Il y a beaucoup de choses à voir. Très très bon, une très très bonne sortie.
Bon, c'est pas fini.
Non, il nous reste notre dernière double review, on va appeler ça comme ça, hein, avec Aquaman numéro 10, Jeff Jones au scénario, Ivan Reis au dessin, et Joe Prado à l'ancrage. C'est la quatrième partie de The Others. Je vais te laisser faire le résumé, tiens.
Alors justement, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est ça le problème, oui. Ça n'avance pas beaucoup, ça n'avance même quasiment pas, autant le dire.
Ben, on va dire comme d'habitude, c'est magnifique, c'est superbe, c'est super beau, on en prend plein les yeux.
Ivan Reis, c'est vraiment l'artiste numéro 1 pour moi chez DC actuellement.
J'ai été un petit peu déçu, je t'avouerai, sur certaines pages, notamment la tête d'Aquaman à certains moments, à mon goût, pas des plus réussis, on les habitue un petit peu mieux.
Mais il y a une splash page, ce qui est bien pour Aquaman d'ailleurs.
Humour.
Voilà. Humour quand il nous tient. Oui, sous la pluie, là, Aquaman qui affronte Black Manta, qui est juste... Là, c'est juste sublime. Une double page comme ça, déjà, à faire, ça doit lui prendre un tel temps à Ivan Reis.
Moi, justement, c'est la case juste après, sur cette page, juste après cette splash page. La première case, je trouve qu'Aquaman a une tête bizarre, quoi.
Oui, oui, ouais, je vois tout à fait, ouais, effectivement.
Bon, en même temps, voilà, une case sur tout le comic, hein, c'est vraiment pour être critique jusqu'au bout.
Oui, et puis, enfin, vu ce qu'il est en train de faire, c'est admissible, quoi. Tu peux avoir une drôle de tête en affrontant, justement, quelqu'un, enfin, je sais pas, mais bon... C'est pas super grave, quoi. Donc, ouais, bah, un combat entre Black Manta, Aquaman. Je dirais même pas un combat spectaculaire, parce qu'au fait, finalement, on le voit pas énormément, ce combat.
Mais non, on voit que ça pète, mais qu'il y a des dégâts, mais c'est pas... Il y a 2-3 pages centrées sur eux, là. On voit surtout...
Ah oui, ce personnage au début.
Ce premier personnage, là, qui faisait partie de The Others, justement.
C'est très très long, quoi. On le voit sur quasiment la moitié du comic.
Mais chaque épisode, il nous présente un Others différent.
Ouais.
Je sais pas si t'as remarqué.
Ouais, mais c'est
un focus.
C'est une technique qui est bien belle, mais on nous le présente vraiment tellement. Enfin, il y a tellement de peu de choses, quoi, qui c'est vraiment au compte-gouttes.
D'abord, moi, le personnage m'a intrigué. Hein. Ce personnage-là m'a intrigué, en tout cas.
Ouais, mais c'est un petit peu.
Quand tu le vois enlever son masque, quand tu vois comment il marche et tout. Des petites choses, hein, comme par exemple quand il se fait porter par l'avion en activant un aimant, tout simplement, pour attirer son fil d'acier et faire croire qu'il s'envole. Enfin, des petites trouvailles toutes bêtes, mais qui fonctionnent et qui rendent le truc plus réaliste.
Ouais. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, voilà, c'est un petit peu le problème qu'on a sur Swamp Thing, une série que j'adore, mais qui est tellement lente à évoluer. Voilà, en 10 numéros, il s'est pas passé grand-chose, et avec Aquaman, c'est un peu pareil, finalement. D'accord, il y a eu cette révélation sur les Others, mais bon...
Par contre, là, le personnage qui nous est présenté, je sais pas toi, mais moi, c'est un look entre Spider-Man et, je sais pas, Splinter Cell.
Bah, entre Wanted.
Ah oui, Wanted, voilà. Voilà. Putain, voilà à quoi ça me faisait penser. Je sais pas pourquoi j'ai pas retrouvé.
Ouais, du Mark Millar. Totalement. Bon...
Et on découvre quelque chose d'intéressant, c'est que Black Manta n'est pas tout seul.
Ouais, effectivement. Mais bon...
Mais dans l'ensemble, voilà, on a quasiment tout dit sur le comic. On vous parle pas de la fin. Y a Mera qui essaie de soutirer des informations au Dr. Shin. Puis cette fin qui promet, nous révéler pour le prochain numéro le secret de Shin.
Ouais, bah, ça me saoule parce que
m'attends à chaque épisode que ce soit ça et finalement non.
Ouais, ouais, non mais c'est trop desservi au compte-gouttes et.
Assez dilué, hein. Pour un
et
truc qui se passe dans la flotte.
Et franchement, c'est un truc qui s'apprécie pas en TPB, mais malheureusement, qui là comme ça ne mérite cette fois-ci qu'un check-it, quoi, pour moi.
Mais ouais, le problème c'est que c'est décevant. C'est dommage de dire check it parce que c'est vraiment très bien, mais c'est tellement lent, quoi.
Ouais,
on a l'impression que c'est un demi,
moment,
on a l'impression
faut,
de lire un demi comic.
Enfin voilà, quoi. Faut pousser un coup de gueule contre la décompression à outrance, et là c'est vraiment ça.
La décompression vient du fait qu'il laisse la part belle au dessin et qu'il y a des pages où il n'y a pas de bulles.
Comme dans Shazam d'ailleurs.
Ouais, il y a des pages où il n'y a pas de bulles. Ouais, mais encore, dans Shazam, tu
dans
avais
Shazam,
différents...
encore, c'est pas grave.
T'avais pas mal de cases, tu voyais une certaine progression. En même temps, c'était quelqu'un qui poursuivait un autre, qui le suivait discrètement dans la nuit, donc...
Qui allait pas écouter de la musique.
Mais voilà, qu'il y ait des bulles, ça aurait paru incohérent. Ouais. Là, quand tu regardes cette dernière page, t'as une grosse case, une autre qui dit le nom d'un personnage, et une dernière case qui répond en disant le nom de cet autre personnage.
Bien sûr.
Ah, deux bulles avec deux mots. Deux mots sur une page. Et si, il y a plus de mots pour dire Next Secret of Shin, quoi. C'est quand même. Non, mais c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment très bien et j'ai envie de dire bye, mais merde, quoi. J'ai l'impression qu'on a un demi-comique à chaque fois, qu'on lit que 10 pages. Ça se tourne à une vitesse, on met 3 minutes montre en main à le lire.
Ouais.
Merde, quoi. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est désagréable, quoi. Et pourtant, c'est bien. Je sais pas quoi faire. Bon. Check it. Check it.
Oui, bah,
check it tendance bye, quoi, mais. C'est Geoff Johns, c'est bon, mais trop lent. Geoff Johns, Bendis.
Ouais, totalement.
Eh bien, c'est tout pour nos comics de la semaine. C'était quand même encore une bonne semaine, hein, finalement.
C'était une bonne semaine, un Comics Weekly très calme comparé au Comics Weekly d'habitude, justement. J'allais dire au Comic City, mais c'est un lapsus révélateur, puisque généralement les Comic City sont aussi un peu plus posés. Et donc voilà, donc ça fait du bien aussi de d'être un peu plus dans la retenue et dans le sérieux, monsieur.
Oui, c'est vrai. J'ai malheureusement pas eu le temps de lire les trois titres Image qui m'intéressaient cette semaine, par manque de temps, hein, tout simplement. Ça me désole, il y avait la sortie de Whispers numéro 3 sur 6, il y avait la sortie de Hell Yeah numéro 4, et la sortie de Mind the Gap numéro 2. Sans parler de la sortie de Fatal numéro 6 qui commence un deuxième arc.
Et bah pour tout ça, tu seras privé de Comics Weekly pendant quelques semaines.
Si vous voulez les enregistrer et les monter à ma place, je suis pour.
Non, même pas. C'est-à-dire que, de toute façon, alors oui, déjà, la semaine prochaine, théoriquement, je ne devrais pas être là.
Alors, si tout va bien, je ferai l'émission avec Sam, en espérant qu'il n'y ait pas d'imprévu d'ici là.
Sinon, peut-être...
Peut-être à dans deux semaines, justement. De toute façon, on vous mettra un message sur Facebook si jamais il n'y avait pas d'émission, hein, que vous soyez prévenu à l'avance.
Ok.
Nous vous remercions encore une fois pour votre fidélité. D'être toujours plus nombreux chaque semaine à nous écouter. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. D'ici le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, bien sûr, hein, les réseaux sociaux, vous connaissez la manœuvre. Et puis tous les anciens épisodes sur iTunes. Et si vous voulez nous laisser une petite question à laquelle on répondra dans la prochaine émission, vous avez le mail, l'adresse c'est podcast@comiccity.fr.
Tout simplement.
Eh bien, à cette heure-là, il est quand même tard.
Ouais, c'est vrai qu'on la fatigue se fait sentir.
Et j'ai une pensée toute particulière pour notre ami Kinghead, qui est en train de se pochetronner comme un gros salaud.
Oui, parce qu'on pourrait penser qu'il n'est pas là pour raison...
Ah, mais il l'a dit, hein, dans sa petite, sa petite pastille. Donc voilà, il n'y a pas de honte, hein. Il est en train de se pochetronner comme un gros salaud à la fête du vin à Bordeaux. Eh bien, santé, Kinghead.
Eh ben, j'espère que ça va pas se terminer
dans la Garonne.
Exactement. sinon pas de Kinghead à la Comic Con, et ce serait quand même dommage pour certaines admiratrices.
On peut être geek et être au courant d'actualité aussi.
On peut être geek et savoir nager, même bourré.
Mais ça, c'est le problème de toutes les villes avec des fleuves ou les villes porteurs, parce que généralement tout le monde dit oui, c'est le problème des villes avec les fleuves, mais moi qui viens de La Rochelle, on n'a pas de fleuve, on a juste la mer, il y a le port de La Rochelle, et je vous assure qu'il y a des mecs qui sautent dans le port complètement torchés à 4h du matin. C'est le même problème, hein.
Bon, en tout cas, c'est bien, parce que j'étais parti sur une conclusion un peu fleuve, justement.
Oh, comme c'est beau.
Grâce à cette anecdote fort passionnante, eh bien, je crois qu'on va pouvoir conclure en beauté.
Oui. Bien écoute, si tu as un mot de la fin.
Pas du tout, justement.
Eh bien moi j'en ai un, j'ai envie de dire tout simplement plouf.
Ah oui, en effet, oui. Surtout avec en ayant terminé par Aquaman, c'est génial.
Tout se tient, monsieur, tout est pensé, tout est réfléchi d'avance.
Comme avec du Bendis, c'est formidable, c'est beau.
On avait prévu ça depuis le Comics Weekly numéro 56, messieurs dames.
Mais je m'en doute, moi je l'avais vu déjà depuis le Comic City numéro 1. Alors même que je ne connaissais pas et que voilà.
Non mais tu te rends compte quand même. Juste comme ça, vraiment, dernière petite pensée, nous sommes quand même au 101e épisode.
Ouais, en même temps je les ai sentis passer, et puis toi aussi. Hein.
Ouais, non mais 101 quoi, trois chiffres, ben, c'est
et ouais.
Très magique.
Et ouais, va falloir penser à faire des variantes cover bientôt.
Le variant de podcast, avec ou sans review, avec ou sans news. Je sais que les news, certaines personnes n'aiment pas trop. Nous, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup d'en faire parce que ça nous permet de commenter l'actualité puis sortir des simples reviews classiques qui sont même très agréables à faire, mais ça reste quand même assez monotone et assez répétitif. Donc, commenter l'actualité, pouvoir donner un petit peu des spéculations aussi.
Et puis souvent, ça donne lieu à des débats donc imprévus.
Voilà.
Tous les news qui font 40 minutes.
Qui sait, peut-être un jour un show dédié aux news et puis un show dédié aux reviews, peut-être ça dépendra du temps et des moyens techniques, hein, parce que c'est vrai qu'il y a toujours du montage derrière. Le jour où on arrive à se passer de montage, effectivement, on pourra peut-être faire un peu plus d'émissions comme ça.
Et aussi un live dédié à Kinghead, bien entendu.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien.
Ouais. Et retrouvez-nous pour certains à la Comic-Con. Je sais plus si tu l'avais dit, mais... J'y serai normalement jeudi et vendredi, et puis il y aura aussi Nono, qui d'autre ?
Nono, il y aura Jean-Lo, il y aura Corwin, il y aura Ino et Kinghead, hein, voilà. Tout le monde va passer. En fait, les seuls du site à ne pas aller à la Comic-Con sont Claire, Sam et moi.
Voilà, la Evil Trinité.
En tout cas, on vous remercie, on vous dit à la semaine prochaine, et puis d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Et ciao à tous.